Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais?
Oh, ça swing.
Bonjour! Bonjour les LM Crado et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, le numéro 140, car finalement ça commence à faire longtemps qu'on traîne avec vous. Je suis Mimi, je ne suis pas Alix, vous l'avez sûrement reconnu si vous êtes aficionado du podcast, car Alix profite, vous le savez si vous la suivez sur Instagram, de vacances dans le sud bien méritées.
Qui fout le seum
extrêmement à la mort, voilà, on peut le dire,
n'est pas là. Story si vous êtes déprimé de votre appart parisien.
Voilà, Alix qui nous manque et en même temps, bon, on a le seum. Voilà, c'est ça. Je suis donc de retour à l'animation de LMK pour cet épisode exceptionnel. Et qui dit épisode exceptionnel dit équipe exceptionnelle, puisque je suis entourée d'une équipe qui n'a jamais auparavant été formée dans LMK. C'est peut-être le crossover le plus ambitieux de l'histoire du podcast français. Je ne lâche pas mes mots. Ça.
Attention.
Laissez-moi vous présenter mes coéquipiers et coéquipières du jour. J'ai fait des descriptions en essayant d'être au niveau d'Alix. Je ne suis pas sûre d'avoir son talent. Parfois, ça rime. C'est un hasard. C'est mon côté un peu poète.
On sera honnête. J'ai trop honnête.
On sera honnête.
C'est pas The Voice, ouais.
Jugeons toutes
Alix,
ces présentations.
Personne juge ces trucs, mais là, ça va être honnête. Je vous ai dit, c'est hostile. Allons-y. Elle cache derrière son sourire solaire une belle dose de sel, mais se change en miel lorsqu'il s'agit de porter la voix des mademoiselles. C'est Aïda, notre chargée de témoignage.
Oh, c'est la plus belle description de moi que j'ai jamais entendue de ma vie.
Je te la donnerais bien pour ta bio Twitter, mais je sais pas si ça va avec ta ligne édito, du coup.
Pour ma bio Instagram, je pense.
Ok, plus sympa sur Instagram.
Ah, c'est un super concept de reprendre ces descriptions pour les descriptions Instagram.
Grave. Ou les bio Tinder, peut-être qu'on devrait les vendre. On va peut-être faire du merch. Alix vous écrit des bio Tinder contre moyennant finance. Pour vous aider à trouver la
meilleure partenaire.
Meilleur
concept. On note l'idée. Welcome back dans LMK, Aïda. C'est ton deuxième épisode.
Oui, je suis trop.
Après un succès retentissant dans ta première venue, bien sûr. Quel plaisir de t'avoir à nouveau avec nous.
Je suis trop contente d'être de retour. En vrai, j'attendais cette réinvitation avec beaucoup d'impatience. Les semaines passant, je me suis dit que peut-être que j'avais été nulle et que tout le monde me détestait. Et que c'était
on a trié les commentaires qui disaient « Mais qui est cette meuf ? Ne l'invitez plus, c'est
elle
inaudible. »
Elle est insupportable, elle dit que tout est de droite, ce qui est vrai.
tout est de droite. Si vous voulez plus d'Aïda qui dit que les choses sont de droite, écoutez notre procès de Lupin dans le podcast de Mademoiselle Affiché. Tout est de droite dans Lupin, sachez-le.
Si vous voulez découvrir ma vraie personnalité... N'hésitez pas à écouter ce podcast. Si vous préférez que je fasse semblant d'être sympa,
restez sur LMK.
Ne l'écoutez pas.
Ensuite, on a avec nous, micro au poing, le menton haut. Elle épaule Alix depuis déjà plusieurs mois et le fait avec brio, c'est Paola.
Trop mignon, oui, bonjour.
Welcome Paola. Tu es la garante de la qualité audio de ce podcast, c'est car ça. Finalement, je ne suis pas si douée en technique. Donc, tous mes espoirs reposent sur toi. Merci
super.
Beaucoup.
Super. Si vous avez des commentaires sur l'audio, n'hésitez pas à m'achever en commentaire.
Pas trop.
N'hésitez pas à être honnête, finalement.
C'est ça, soyez honnête.
Et enfin, avec nous, nous avons un homme chez Mademoiselle. Oui, mais pas n'importe lequel. Il nous apprend à porter la chemisette comme des reines et c'est notre nouveau rédacteur mode pour la première fois dans Laisse-moi kiffer, Anthony.
Hello, hello.
Hello.
Je ne sais pas quoi dire, mais je suis là. Merci pour l'invitation.
Est-ce que tu es sur une... Si on devait faire un pourcentage de à quel point tu es content d'être là et à quel point tu es stressé d'être là.
100% et 100%.
Ah. 100% et 100%.
On a
tous
mesuré.
Mes potards sont au max actuellement. Bienvenue Anthony, ça va être très cool de t'avoir ici. Si vous n'avez pas suivi, Anthony est notre rédacteur mode depuis quelques mois maintenant. Allez lire ses formidables articles, tout est très bien et très belle science des titres.
Ah oui, vraiment.
Et du coup, moi, vous me connaissez, je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle et membre de la brigade du kiff de Laisse-moi kiffer depuis le jour 1. Voilà,
quel plaisir.
C'était aux origines.
Je fais partie des meubles, tout à fait. Je suis cette commode un peu fanée, mais que tu peux pas vraiment jeter parce que t'as un attachement sentimental. Voilà. toujours la flatterie, l'auto-flatterie, c'est ma spécialité.
On aurait dû préparer une description vachement plus sympa que celle que tu viens de faire de toi-même.
C'est vrai que j'aurais pu, mais c'est pas... Oui, j'avais pas pensé à cette histoire de commode. Mais c'est même Alix, je me dis qu'il faudrait lui faire des descriptions à chaque fois parce qu'elle elle nous fait tellement briller et après elle est là, et moi c'est Alix. Donc, peut-être qu'un jour on préparera des descriptions à Alix. Du coup, il est temps de commencer ce podcast avec, vous le savez, auditeurs et auditrices, et certains ici le savent, les intros les plus longues du monde, puisqu'il y a 8 rubriques. On va peut-être avoir une rubrique commentaire assez courte, puisque Anthony, c'est ta première, donc a priori, tu n'as pas de commentaire sur tes précédents passages dans LMK.
J'en ai 4, t'inquiète.
Yes. Putain, Paola, la bonne élève. Moi, j'en ai un que j'ai trouvé sur Apple Podcast. Vous pouvez les laisser en mettant 5 étoiles.
Merci, j'étais presque à l'heure.
Je vous ai pas rebriefé là-dessus parce que moi-même, j'ai oublié de le faire 100% des fois, ce truc de Apple Podcast, 5 étoiles.
Il n'y a que Alix qui C'est impressionnant quand même.
Du coup, Aïda, est-ce que par hasard, tu as gardé un commentaire de ton premier passage dans LMK ou pas?
Alors, j'ai gardé en tête tous les précieux commentaires de mon passage dans LMK, car ils m'ont tous énormément touchée et c'était trop bien. D'ailleurs, merci aux auditeurs et auditrices qui ont eu pitié de moi après mon premier passage, parce que j'ai dit « Salut, j'ai 60 followers sur Instagram !» Et du coup, plein de gens sont venus me suivre pour faire monter ma street cred. C'est toujours un peu nul, enfin non, c'est pas nul parce que maintenant il y a des gens trop bien qui sont là, mais j'ai quand même 200 abonnés, ce qui est un peu naze. Ouais, mais bon, c'est pas le swipe, quoi.
Non,
mais... il y a pas de swipe sur Twitter. Micro-influenceuse. Sur Instagram, allez follow, allez donner de la force. On mettra le lien dans les notes de ce podcast.
Venez, bientôt l'influence.
Bientôt le swipe, bientôt les 10K.
Ah ouais, on y croit.
Non, mais du coup, j'ai eu des commentaires trop choux. J'ai une personne qui m'a envoyé un cœur. C'était trop bien, c'était tout ce qu'il me fallait.
On l'embrasse.
Et des gens qui m'ont dit, Aïda, trop bien de t'entendre sur LMK, trop bien que tu dises que les choses sont de droite et tout. Je vous aime vraiment.
J'ai l'impression que ces commentaires sont inventés.
Peut-être.
Tu on attend la preuve, Aïda.
C'est mon compte visuel.
On attend les screens de DM quand même.
Hackez-moi, allez-y.
Du coup, moi, j'ai un commentaire Apple Podcast. C'est un commentaire que Fanny a laissé avec 5 étoiles sur Apple Podcast le 15 avril et qui s'appelle « Entêtant ». Waouh. Elle nous dit « L'autre jour, je fredonnais un air sans y penser et je me suis rendu compte après réflexion que c'était la mélodie du jingle de Cédric. Il a ses chances de devenir le tube de l'été. Car rappelons qu'en l'absence de jingle envoyé par nos charmants auditeurs et nos charmantes auditrices, nous utilisons, dans une forme de syndrome de Stockholm, le même jingle créé par Cédric, épisode après épisode. Et c'est vrai que ma voix, il est assez efficace. Donc je pense qu'on peut lui suggérer de se reconvertir sur NRJ pour l'été. Ouais.
Clairement, je confirme, pour le monter toutes les semaines et pour l'avoir tous les jours de toutes les semaines en tête, voilà, j'approuve.
Est-ce que tu dirais que tu es dans une relation toxique avec ce single?
Oui, je crois. Oui, avec Cédric, même, que je ne connais pas du coup. Mais c'est formidable.
Ah, tu l'as jamais rencontré?
Si, je l'ai croisé, mais on n'a jamais fait de LMK ensemble et tout du coup. Mais par contre, sa chanson, je la fredonne, je la connais, je peux te faire le rythme. Y a pas de...
On en fera une story de portable à télécharger.
Oh ouais.
Mais
oh,
du
vraiment.
Coup, le jingle, c'est Cédric. Et c'est après ce jingle de Cédric que tout le monde doit crier merci Valentin, c'est ça?
Oui.
Oui, c'est ça.
En fait, peu importe qui fait le jingle, on crie merci Valentin, mais à la base, on devrait crier... Comment il s'appelait? C'était pas Valentin, c'était un autre nom. En fait, Valentin s'appelle pas Valentin, mais Vincent. Bref, il y a un auditeur, je pense que c'était le premier, pour refaire le lore LMK, le premier auditeur qui nous a envoyé des jingles. C'était pas forcément quelque chose qu'on avait organisé, il me semble que c'était assez spontané. Oh, et il s'appelait Valentin, et du coup, on a dit merci Valentin. Et après, c'est resté, parce qu'en fait, on ne sait jamais le prénom des gens, on n'est jamais briefé. Et du coup, on fait merci Valentin, et on s'est rendu compte, un laps de temps assez honteux après, qui s'appelait même pas Valentin à la base, il s'appelait Valentin. Et maintenant, il y a même un compte Instagram qui s'appelle Merci Valentin, créé par une fan ou un fan de LMK, qui tous les jeudis, comme l'épisode sort, poste un design qui dit Merci Valentin.
Oh, et ça, c'est beau. C'est trop mignon, quand même.
C'est pour tous les Valentins du monde, mais pas pour Vincent et Cédric qui nous font des jingles. Voilà. Mais voilà, un petit shout-out pour Cédric qui peut devenir pop star grâce à son jingle. C'est quoi tes commentaires, Paola?
Oui, moi, il y en a un qui m'a beaucoup fait rire sur Instagram. On poste du coup toutes les semaines les visuels Instagram. Et à la fin du visuel, il y a des mèmes. Et le mème de cette semaine, il t'était dédié, Mimi, d'ailleurs.
Oh.
C'était très drôle. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais allez voir sur la page Insta parce qu'il est très marrant. Ça parle des monologues de Mimi. Voilà. Et il y a un commentaire qui dit juste de Constantin Ivanov, qui dit juste « Wesh, comment ça parle de Mimi ?» Ici.
Et j'ai respecté Mimi.
La raison. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça hyper drôle qu'ils viennent à ta rescousse comme
moi qui ai laissé ce compte.
Alors, Mimi, est-ce que c'est un faux compte?
Non, je ne suis pas contre.
Est-ce que c'est ton alliance?
Peut-être que Constantin usurpe mon identité, mais je n'usurpe pas la sienne. Ce n'est pas moi, mais j'aurais laissé le même commentaire à sa place. Ouais, voilà. Je commence à parler de moi ici.
Et c'était très drôle. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Du coup, voilà, je voulais absolument
merci
le dire.
Merci Constantin de me défendre.
C'est ça. Et
contre
je
la
ça
seule personne qui un jour a dit que mes monologues étaient un peu longs, la pauvre.
C'est ça.
C'est ma némésis maintenant.
J'ai vu le commentaire d'ailleurs, c'est vrai que c'est très froid comme manière d'amener.
Oui, c'est juste, c'est dites vraiment... à Mimi d'arrêter ses monologues, on comprend rien.
Même pas de points, pas de points. Hein.
Mais alors, je vais vérifier, est-ce que cette personne a mis 5 étoiles quand même?
Non, 3 étoiles, j'ai vu tout à l'heure.
Ah non, je nous ai fait perdre 2 étoiles en parlant trop. Désolée, Rando et moi, ou je sais plus, juste comme ça, le hâte.
Nous, on adore quand tu parles trop.
Merci.
Parle ouais, vraiment, merci, parle plus, Mimi. Là, il fait 3 heures le MK cette semaine.
Ouais. On est là jusqu'à ce soir. Hein.
Ouais,
21h, on lâche l'antenne. Voilà. Donc voilà, c'est un commentaire court mais efficace.
Franchement, c'était un excellent commentaire. Merci beaucoup. Merci Paola, merci Aïda. Et merci à tous les LM Crado et toutes les LM Crado qui nous laissent des commentaires.
Vous êtes si cool.
Oui. On va passer à ma section préférée peut-être de l'intro de ce podcast. C'est les anecdotes de stars. C'est oh ma ouais. passion. Et je crois qu'Anthony m'a promis qu'il aurait une anecdote de stars. Alors, j'espère que l'anecdote est extrêmement bof, mais que les stars sont extrêmement cool, ou l'inverse, car c'est toujours ça qui fait une bonne anecdote de star. Faut qu'il y ait un truc un peu foiré quand même, quoi.
Bah, je sais pas, enfin, vous allez me dire, vous allez juger par vous-même, mais en gros, dans une vie précédente, j'étais stagiaire mode au Grazia, et il m'arrivait un truc de malade. En fait, j'ai été invité au César, la 40e cérémonie, en février 2015, et en gros, la cérémonie est soporifique, donc j'avoue, je me suis un peu endormie. Sauf quand Kristen Stewart est venue et qu'elle avait tout son prompteur écrit en français phonétique, c'était assez drôle et mignon. Et en gros, après la cérémonie, on va au Phuket se manger. Et en fait, là-bas...
Like you do. C'est de droite, le Phuket.
On dit feu, le Phuket, maintenant qu'il s'est fait brûler par les gilets jaunes, non?
Je crois qu'il s'en est remis, malheureusement. Mais clairement, c'est de droite, le Phuket. Et les Césars aussi, mais bon, ça, c'est évident. Et d'ailleurs, c'était une cérémonie complètement dingue. Enfin, il y avait Adèle Haenel qui avait reçu le César de la meilleure actrice pour Les Combattants.
C'était la meilleure année, en fait, Kristen Stewart et Adèle Haenel.
Ouais, c'était ouf. Okay,
j'avoue, c'est un beau cru.
Et ces Césars-là, ils n'étaient pas de droite, je pense.
Ouais, on va dire que c'était l'exception qui confirme la règle. Il y avait Pierre Niney qui gagnait le meilleur acteur pour Yves Saint-Laurent.
Moi, je passais mon bac.
Dingue. Oh, je me sens grave.
Gros, jalouse. Moi, je passais mon bac au lieu d'être au César avec toi.
Grave.
Ah, c'est vrai d'être jeune, Paola.
Franchement, c'est mieux à la télé, ou ne pas regarder, quoi. Juste lisez le débrief sur, sur Mademoiselle. C'est beaucoup mieux.
Tout à fait, yes.
Et donc, je me retrouve au Phuket. Et je sais pas qu'est-ce que je fous là. Je suis stagiaire. J'ai emprunté un costume Givenchy qui était pas du tout pour moi dans le dressing de Grazia. Il y avait des stands de club dessus alors qu'on devait le rendre le lendemain. C'était n'importe quoi. Et surtout, j'étais bourré parce que.
Et oui,
c'est coupe de champ après coupe de champ. Ouais, grave. Et bref, donc je sais pas ce que je fous là, et moi je vois Marion Cotillard qui passe devant moi, et je veux lui dire « Ouais, est-ce que tu veux pas répondre à mes questions et tout ?» Mais c'est qu'il est 2h du matin. Et moi je marche plus très droit, parce qu'après une coupe, je...
Marion, viens.
C'est à peu près ce qui s'est passé, j'étais « Marion !» Et en fait, moi en plus, je suis pas très cinéma, j'avoue, et du coup, genre, je savais pas quoi lui dire, à part « J'adore Taxi », elle m'a dit « Merci
!» J'adore Taxi.
C'est la pire chose que tu pouvais lui dire.
98 films depuis, elle a eu un Oscar et tout. Je crois
que t'es là. On est en 2015.
C'est l'équivalent du rappeler son rôle dans Batman pour moi. Genre vraiment, tu pouvais pas faire pire.
Bah, Batman encore, ça, je pense qu'elle en a marre. Mais Taxi, c'était un peu inédit pour elle. Tu vois, elle a perdu l'habitude qu'on la renvoie à ça, je pense. Enfin, en tout cas, elle avait l'air.
C'était rafraîchissant.
Ouais, voilà, elle s'est dit, oh, un garçon vintage, tu vois. Enfin, le mec n'a pas la télé depuis 1997. Quoi.
On va pas le bousculer, on va parler de Taxi.
Et du coup, elle me dit « Ah, merci !» Après, je lui dis « Ouais, est-ce que tu pourrais répondre à 2-3 questions pour Grazia ?» Et tout, elle me dit « Chaton, il est 2h du matin, non !» Et du coup, elle m'a appelé Chaton. Mais bon, ça, c'était le début de l'anecdote. Et le pire...
Il y a une suite.
Ouais, le pire, c'est qu'en fait, pendant tout ce temps, quelqu'un est en train de me dire « Excusez-moi, excusez-moi, sorry, sorry !» Et moi, je fais « Non, mais je parle à Marion Cotillard, ouais !» Enfin,
je sais pas qui tu es, mais tu dois être moins emporté.
Ouais, voilà, laisse-moi vivre mon moment, tu vois. Et en fait, c'était Charlize Theron, parce que... Est-ce que je marchais sur sa robe? Et...
T'as marché sur la robe de Charlize Theron?
Ouais, et en fait, ce qui m'a fait réaliser que c'était elle, c'est parce que Sean Penn m'a engueulé en disant « Ouais, je bouge de là, tu vois, mais en anglais. » Et moi, bourré, je suis là « quoi Mais attends, mais c'est Charlize Theron et c'est Sean Penn et je parle à Marion Cotillard. » Et surtout, Shane Black, il a pas l'air commode, quoi. Enfin...
Alors, je pense pas. Il me semble que dans les faits de sa vie, Shane Penn est peu commode. C'est... Il avait quand même attaché Madonna à une chaise et il avait voulu la taper avec une batte, il me semble, dans le... la réalité véritable.
Ouais. Alors, tu vois que Shane Penn, si il me dit «
Pousse-moi », je suis là. Oui, je me pousse. Immédiatement.
Je sais pas, mais en tout cas, il avait pas l'air... Il a l'air violent, en tout cas. Et en 2015, ils étaient encore ensemble. Ils étaient pas encore séparés. Bref, donc c'était le power couple de la soirée. Et moi, j'étais là « Ouais, Marion Cotillard, j'adore Taxi Donc, humiliation totale, 2 mois par mois. C'était mes premiers et derniers Césars. Voilà.
Incroyable. C'est une excellente anecdote star. Je pense que si j'étais toi, le sol se serait ouvert pour m'engloutir et j'aurais dit merci, le sol. C'est bien. C'est ce que j'ai envie de faire là tout de suite.
Mon Dieu. Non, mais je leur ai raconté à tout le monde. En mode, tu sais quoi, Charlize Theron, elle a le seum contre moi.
C'est pas le truc de se réinventer une storyline, genre ouais, non, elle m'aime pas, non, je sais pas ce qu'elle a contre moi. Elle me déteste, je
suis On était en soirée ensemble, au Fouquet's.
Ça s'est mal passé, hein, mais bon, Sean Penn aussi, il était tendu, quoi.
Des fois, elle parle de moi avec son mec en mode tu te rappelles la connasse qui a marché sur ma robe et tout. Bah, c'est moi la connasse en fait.
Je les obsède finalement.
Ouais, peut-être que je suis devenue leur secret de conversation préférée, je ne sais pas.
Je suis dans un portrait 3 avec des fléchettes et tout.
Peut-être. Mais figure-toi qu'il les racontait à des gens et personne ne me croit en fait. J'en ai même fait un article dans Gradia et tout parce que j'étais quand même là pour travailler. Oui. Et ouais, personne ne croit à cette histoire, mais c'est une histoire vraie.
Je te crois. Il se passe assez de choses cheloues dans les festivals et les machins comme ça où tu finis tout le temps par être brassé avec des gens d'un niveau de célébrité absolument débile. Que moi j'y crois, à marcher sur la robe de Charlize Theron en disant parler bourré à Marion Cotillard, je suis là, oui, c'est les Césars, quoi, ça doit se passer comme ça.
Voilà, c'était ma vie folle de stagiaire.
Merci Anthony, j'espère que tu vivras des histoires aussi rocambolesques chez Mademoiselle, maintenant que tu n'es plus stagiaire.
Ce n'est que le début.
Ce n'est que le début des anecdotes qui tuent Anthony. Écoutez, j'avais une autre anecdote bof de star, mais je vais la laisser à Alix pour la semaine prochaine, parce que déjà elle est très bien, c'est une double anecdote bof de star, et que la tienne était, il y avait 3 stars dedans. Donc t'as déjà gagné, tu vois. Ouais.
Bah il y a quand même un moment où j'ai dansé collé serré avec Romain Duris et quelqu'un d'autre qui est assez famous, mais son nom m'échappe. Hein.
Encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la mémoire.
À consommer avec grande modération.
C'était assez mythique, mais je m'en rappelle plus.
Si vous avez un souvenir d'Anthony qui danse bourré au 40e César avec Romain Duris et quelqu'un, envoyez-nous un DM sur @laisse-moi kiffer afin de lever ce mystère.
Si vous avez des photos.
Ouais, je suis discrètement en train de relire mon propre article dans Gradia pour voir si je l'ai pas écrit.
Cet homme a la moitié des infos sur des soirées qu'il a lui-même vécues, c'est beau.
Source, champagne. Moi-même. C'est ça.
Écoute, pendant que tu cherches, on va écouter une dédicace pas comme les autres puisqu'il s'agit du fameux vocal boubou que nous demandons maintenant à nos LM Crado. Si jamais ils se retrouvent dans une situation où la tisane a été un peu forte et que ça les fait marrer, ils peuvent nous envoyer sur Instagram, par mail je crois, à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Donc vous envoyez un audio, comme vous le faites si vous êtes plus jeune que moi, car je déteste les audios, en état d'ébriété plus ou moins avancé, mais en faisant attention à vous bien sûr, et après on écoute dans Laisse-moi kiffer, c'est sympa. Donc là on va l'écouter tous ensemble.
Salut LMK. Du coup, on est un peu boubou, donc comme prévu, enfin...
On vous fait un petit vocal parce que on s'est dit qu'on n'avait pas encore entendu trop de personnes qui le faisaient à deux et...
C'était le moment de vous dire que vous aimez et voilà.
Et qu'on kiffe écouter les podcasts chaque semaine parce que ça fait un peu de bonne humeur dans la semaine et...
Et ça nous aide à fond pour nos charrettes.
Grave, parce que hashtag les études d'archi, hein.
Merci.
Bisous.
J'adorais le merci.
C'est incroyable, beau. Merci suraigu sur la fin, c'est ça qu'on veut finalement.
Ah, très très boubou, hein. Très 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 boubou.
Très 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 boubou.
Ah, je sais pas, il y a un niveau de boubou où tu rates ton audio, tu vois, je pense. Ah, t'articules pas, t'as pas appuyé sur le bouton, c'est foiré, la journée là, d'après t'es là, mais j'ai jamais envoyé un truc. Donc là, ça va, mais évidemment, faites attention à vous, ne consommez pas trop d'alcool, mais merci pour ces vocaux boubou qui mettent un peu de joie et de fête dans nos vies tout aussi confinées que les vôtres.
Ah oui.
Et c'est moi, ils étaient en train d'écouter de la musique celtique ou un truc comme ça. Genre...
Oui, il y avait un.
Ah, c'est possible. Oh, peut-être que c'est un fest noz.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Et c'est super les fest noz. C'est mon kiff d'ailleurs.
Spoiler.
J'adore les fest noz.
En vrai, j'aime bien les fest noz aussi, premier dog.
Ah ouais.
Mais c'est mon côté, j'aime bien la médiévale.
Mais
fantasy,
tu détestes
donc,
pas les Bretons?
Ah non. Non, je déteste pas les Bretons, je comprends juste pas pourquoi ils sont obligés d'informer tout le temps les gens qui sont Bretons. beaucoup plus que des gens, par exemple, qui viendraient de Charente-Maritime, qui te bah,
moi,
qui cassent jamais les couilles.
Par exemple, et
Ah, ça, oui. Non, mais on embauche des gens, et puis après, on apprend des choses sur les gens, c'est pas grave.
Non, non, j'ai... Super.
J'ai une excellente théorie sur pourquoi les Bretons font du forcing avec le fait qu'ils soient Bretons. Et je pense que c'est parce que c'est les Algériens de France. C'est pour ça qu'ils ont un drapeau. En fait, les Bretons et les Algériens viennent de... La...
C'est les deux seuls peuples dont on voit les drapeaux à chaque
Exactement.
Occasion.
Exactement.
Mais est-ce qu'eux ont le droit de garder leur drapeau pendant les mariages et compagnie?
Les Bretons, bien oui, car maintenant, ils sont français. On les a obligés à être français. Et contrairement aux Algériens, ils n'ont pas dit au bout d'un moment qu'ils en avaient marre. Donc eux, ils ont le droit parce que le drapeau de la Bretagne, c'est une région française, finalement.
Oui.
Ah. Celui de l'Algérie n'étant plus une région française depuis 2-3 années, eh bien, au final, on n'aura plus le droit. Car finalement, c'est la priorité du gouvernement. C'est de droite, l'interdiction des drapeaux de mariage, Aïda.
On se pose la question.
Une réponse ou...
J'ai envie de faire un nouveau segment. Demandez à Aïda si les choses sont de droite.
Oh, réinvitez-moi. Réinvitez-moi.
On va devoir t'inviter à chaque fois pour le nouveau segment de l'intro de LMK. Est-ce de droite avec Aïda ? On fera un jingle aussi.
Mon job de rêve est devenu réalité. Bisous, maman. Tu m'avais dit que je pourrais pas, mais je le fais.
Allez, cette intro est déjà bien trop longue. On va passer au kiff. Jingle.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Je crois que c'est l'heure des mini kiffs.
Merci Valentin.
C'est ma foi un jingle un tout petit peu vintage puisqu'il parle de mini kiff et que maintenant dans Laisse-moi kiffer nous n'avons plus que un kiff par personne sauf une fois par mois sur Twitch, mais c'est pas grave, on le prend parce que cette voix oui. est si jolie,
si doux.
C'est doux,
si doux, oui, franchement ça m'a mis un peu de soleil là dans un peu de réconfort dans ce jeudi, c'est une belle oui, chose qui se passe.
Oh, écoutez ça avant de s'endormir,
grave.
Oh là là,
en boucle. Paola, est-ce que tu veux bien commencer?
Oui.
C'est quoi ton kiff?
Eh bien moi mon kiff c'est... Alors attends parce que la prononciation n'est pas simple. C'est apprendre à réaimer lire.
Ah ok.
Réapprendre à aimer lire. Apprendre à réaimer lire.
J'ai compris.
Voilà. Et voilà en fait. Parce que...
Eh ben merci
bref.
Paola, on va passer à un autre kiff.
Aïda, ton kiff. Non, en fait, parce que figurez-vous que moi, je suis encore en master, donc en études. Je suis une enfant des années 98, de l'année 98.
Les fameuses années 98.
Nous avons duré si longtemps.
Il y en a eu plein. Et du coup, je suis encore en master, en études. Et du coup, pour le master, on doit lire beaucoup. On n'a pas trop le choix. Et moi, ça fait des années que j'ai arrêté de lire. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais petite, c'était trop mon monde et tout. Je faisais vraiment partie des enfants. Je ne parlais à personne. J'étais trop timide. Je changeais tout le temps d'école. Donc, j'étais la nouvelle. Donc, mes livres, c'était mes seul copain, quoi, vraiment en mode mes livres. Et du coup, je lisais beaucoup, beaucoup et j'adorais ça. Et en fait, au lycée, ça s'est totalement perdu. Genre, j'ai arrêté de lire, je dirais, en première. Pourtant, j'étais en L, mais je lisais plus que du théâtre parce que je faisais beaucoup de théâtre et c'était mon objectif, quoi. Et après, pendant ma licence de théâtre, j'ai lu que du théâtre. Et du coup, tout ce qui est roman, livre, sociologie, nanana, j'ai arrêté, mais total, quoi. Et là, du coup, récemment, j'ai dû reprendre pour le master, pour le mémoire. Et je découvre des trucs trop bien, que j'aime trop. Je replonge un peu dans l'univers fantastique avec le sorceleur, parce que j'avais adoré le jeu vidéo voilà, pendant le premier confinement. Je crois que j'avais passé ma vie dessus de 4h à 4h du matin tous les jours. Et donc, j'ai un peu commencé les livres. J'ai rattrapé un peu toutes mes lectures féministes que j'avais pas lues encore. Et voilà, je kiffe de ouf et j'apprends plein de trucs. C'est trop bien.
Mais attends, tout ça, c'est dans le cadre de ton mémoire ?
Les lectures féministes, oui. Et le reste, le sorceleur, non, pas trop. J'aurais bien aimé, hein, mais...
Oui, c'est parce que j'étais là. Attends, mais comment tu fais rentrer les lectures féministes et The Witcher dans le même... Je sais pas, j'ai envie de le lire, mais du coup, j'arrivais pas à bien comprendre.
Oh, il y en a qui arrivent, hein. Je suis sûre, il y en a qui arrivent à le faire.
N'hésitez pas à faire des tests sur les personnages féminins dans The Witcher.
Ah ouais.
Je les lirai avec plaisir, car j'ai que ça fout de ma vie, vraiment. Comme les dogs, j'aimerais bien. Grave. Est-ce que tu penses pas... Parce que moi, j'ai eu pareil que toi, vraiment gamine, je lisais énormément, et maintenant, j'ai eu une longue période au début de l'âge adulte, donc ouais, après mon bac pendant les études où je lisais très peu. Au début je lisais encore beaucoup parce que j'avais pas internet chez moi, parce que mes parents voulaient pas me payer une box. Après j'ai eu internet chez moi, j'ai fait bye les livres. On avait pas Netflix à l'époque, mais on avait déjà Game of Thrones et Breaking Bad, donc clairement bouquiner bif bof. Et aussi parce que je vivais en coloc et du coup bah t'as moins envie de faire une activité solitaire, donc on faisait plus regarder des films ensemble et tout. Mais je pense que ça a été beaucoup lié aussi au fait que j'ai eu un smartphone et que du coup, c'est facile de sortir son smartphone quand on a une demi-heure à tuer plutôt que de sortir un bouquin. Donc est-ce que c'est pas qu'au lycée aussi t'as eu un smartphone ? J'ai l'impression d'être une boomer, je sais pas quand est-ce que les gens ont un smartphone quand ils sont nés en 98. Si ça se trouve, tu l'as eu en CE2 et tu seras là, non, j'avais déjà un smartphone, Mimi. Mais est-ce que ça coïncide pas un peu, tu vois ? Je travaille ma théorie sur le smartphone nous a coupé des livres.
Ouais, non, mais tu fais bien de théoriser parce que c'est quand même un gros problème dans ce parcours-là. C'est que j'ai eu un téléphone très jeune. C'était pour appeler la famille et tout, parce qu'en campagne, faut que tu puisses appeler quoi tes parents pour leur dire voilà, je suis rentrée d'école. Au cas où, on sait jamais. Mais après, j'avais pas accès aux écrans non plus très jeune. J'allais pas beaucoup sur l'ordinateur et tout. C'était plus mon petit frère, tu vois. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où on a vraiment un accès à YouTube, à toutes les plateformes, Netflix, n'en parlons pas. Clairement, moi, ça a niqué le game. J'ai fait que ça tout le temps. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que t'as raison, c'est hyper facile d'accéder à des contenus, genre des séries. Puis ça vide la tête, en fait. C'est ça aussi, c'est qu'un livre, ça fatigue quand même au niveau des yeux, je trouve. Moi, ça me fatigue beaucoup. Ça m'endort un peu et tout. Alors que les séries, ça me tient en haleine. Je peux vraiment... C'est limite être accro, hein. Je peux limite vraiment passer de 9h à 4h du mat sur un écran et pas bouger, quoi. Et un livre, faut s'accrocher un peu plus, je trouve. C'est une activité qui demande plus d'efforts, mais qui est pas moins intéressante. Et c'est pour ça que là, j'essaye de réapprendre à aimer. C'est un kiff objectif, un peu, en fait.
Voilà. Wow. C'est un kiff projection dans l'univers.
Voilà, c'est ça. C'est, j'aime lire, je le sais. Et j'essaye de réapprendre à aimer lire parce que là, il le faut si je veux avoir mon année. Voilà.
Après, je pense qu'il y a... Enfin, dans le cas de la lecture, on est beaucoup, beaucoup d'enfants, je pense, à avoir adoré le lire enfant et avoir perdu ça en grandissant. Mais on perd aussi d'autres choses, comme, je sais pas, il y en a peut-être qui aimaient beaucoup rêvasser ou bien dessiner ou des choses comme ça. Et la lecture, c'est une activité socialement très connotée. Bah, je dis pas que la lecture, c'est de droite, je vais laisser Aïda le dire.
Non, la lecture, c'est pas de droite.
Yes, on est sauvés.
Ça dépend ce qu'on lit, je pense, aussi beaucoup.
Oui, mais du coup, c'est une question de contenu, pas une question d'activité.
Oui, voilà, d'accord. Mais je sais pas si c'est lié qu'au smartphone et aux plateformes en général, parce que... Enfin, il y a plein d'activités qu'on perd, quoi. Je crois que c'est la youtubeuse Clarinette qui dit ça très bien, d'ailleurs, aussi. Mais perso aussi, moi, je lisais tellement. Enfin, je pouvais passer mes journées à bouquiner. Je détestais tout le monde. Ça n'a pas beaucoup changé, mais...
Est-ce qu'on a tous eu la même enfance autour de cette table?
Personne n'était la star de la cour de récré. Personne n'était populaire. Voilà.
Bon. On était des cassos.
La revanche des cassos.
Le nouveau nom de l'année. Cool de notre époque.
Mais tu vois, j'ai eu un pantalon CE1. Enfin,
un pantalon?
Un pantalon. Oui, avant ça, j'allais en col en slip.
J'ai envie d'intituler l'épisode « T'as eu un pantalon en CE1 ».
Ouais, vraiment. Oh là là, j'ai eu un pantalon en CE1, c'est génial.
Avant
Désolée.
Ça, c'était slip ou jupe, basta, tu vois. Non, mais ouais, la lecture, en revanche, c'est une activité que les adultes veulent récupérer parce que, justement, ça fait bien en société, quoi. De dire « Ouais, je lis ».
Ouais, oui, c'est ça. Je suis trop d'accord, genre. Désolée, ça n'avait aucun fondement. Mais je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, c'est connoté limite péjorativement, les gens qui lisent trop, beaucoup.
Ah non, on ne s'est pas compris.
C'est pas d'accord, mais...
Non, je disais justement, on veut récupérer la capacité de lire beaucoup parce qu'on sait que c'est bien vu socialement de lire, en fait.
Ah, ok.
C'est une activité qui est positivement connotée socialement.
Bah, ça dépend de ce que tu lis, quoi. Si tu lis des bouquins qui ne sont pas respectés, parce que tu parlais tout à l'heure de séries divertissement, tu vois, il y a des bouquins qui, pour moi, ont le côté un peu bingeable des séries, mais ça va être... pas les auteurs et les autrices les plus respectés par l'Académie française, mais un Marc Lévy ou un Aga Valda, En soi, il y a un côté, c'est facile à lire, c'est prenant, il y a souvent des rebondissements, il y a des... c'est rarement révolutionnaire en termes d'intrigue, mais comme plein de séries le sont pas, et on les regarde même en sachant où ça va. Mais personne va aller, enfin pas grand monde va aller dire dans un podcast, dire ma passion c'est de lire tous les Marc Lévy parce que c'est hyper connoté littérature.
Quoi. Grave.
Ouais, c'est les romans de gare. Mais je pense aussi que... non, pardon, on va couper ça au montage. Hein.
Quoi? Non, j'avais rien dit.
Incroyable. On le laissera au montage.
J'adore ce moment.
Ah non, si, voilà. Mais en fait, les séries, en vrai, ça aussi, tu vois. Enfin, en fait, les romans de gare, c'est de la culture populaire. Enfin,
oui,
c'est,
ouais,
de,
oui, c'est ça.
De la même manière que les séries sont, font partie de la culture populaire. Ouais. Et c'est juste que ça devient trendy de regarder plein de séries, mais ça reste une pratique populaire, enfin, très commune, quoi, du grand public, même.
Oui, je sais, ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre truc qui rend difficile la lecture, je trouve, c'est le... Enfin, je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais je l'ai beaucoup ressenti en arrivant à Paris. Parce qu'à Paris... Moi, j'ai toujours vécu dans des toutes petites régions, des toutes petites écoles où il y avait vraiment pas de théâtre, pas de ciné, pas de machin. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis rendu compte que les gens de mon âge, ils avaient une longueur d'avance sur, enfin une longueur d'avance. Ça dépend ce qu'on considère être une longueur d'avance, mais sur plein de sujets qui m'intéressaient, ils avaient une longueur d'avance parce qu'ils y avaient accès. Et moi, j'apprenais à marcher, tu vois. Eux, ils y apprenaient, mais en allant au ciné, tu vois. Donc c'était pas pareil. Et du coup, il y a aujourd'hui un truc où on est beaucoup, je trouve, à vouloir lire pour rattraper un retard accumulé à cause un peu du centralisme parisien et tout, tu vois. Mais du coup, c'est pas une bonne motivation parce que, enfin, moi en tout cas, c'est pas une bonne motivation parce que je suis en mode vas-y, là je vais apprendre plein de trucs et tout, comme ça je vais avoir l'air moins conne en société. Et en fait, je lâche au bout d'un moment parce que quand on est petit, on lit parce qu'on a envie de lire, tu vois. Moi je lisais des romans fantastiques parce que j'adorais ça et
par
que ça
plaisir.
Me passionnait. C'est ça, par plaisir. Alors qu'aujourd'hui, je suis en mode par obligation, faut que je me cultive, s'il vous plaît, aidez-moi, tu vois. Et du coup, voilà. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à lire. Et puis les écrans n'aident pas, hein, vraiment. Voilà.
En vrai, les écrans aussi, ça fatigue les yeux et tout. Mmh. C'est juste qu'on surmonte ça, quoi.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est
ouais, mais ça tire je pense que c'est un poil plus passif de regarder un film ou une série que de lire un livre parce que t'as moins de choses à construire dans ta tête. Parce qu'on te propose un truc qui est déjà assez abouti et auquel tu peux pas changer grand-chose par ton imagination. Après, il y a des films et des séries qui sont compliqués où t'es obligé de suivre et de te... Et juste bah là, de faire un peu un travail d'analyse de « ok, qu'est-ce qu'on me dit ?» Enfin, les trucs un peu expérimentaux, ou même une, je sais pas, même une série à tiroir avec plein de twists et tout, ça va te garder un peu plus concentré. Mais après, il y a aussi le côté bruit de fond. Une série, tu peux la mettre en bruit de fond et zoner sur ton téléphone, et passer une soirée à faire ça, alors que si t'es dans un livre, c'est compliqué de faire autre chose à côté. Même moi, je peux pas écouter de la musique en lisant, s'il y a des paroles dans la musique, parce que mon cerveau est très monotache, donc soit les paroles me parasitent, quoi. Donc forcément, tu le fais tout seul. Tu le fais dans un moment calme. Il y a plus beaucoup, je trouve, de gens qui lisent dans le métro et tout, parce que c'est peut-être pas aussi le... Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas le setting idéal. Enfin, avant, beaucoup de gens lisaient dans plein de lieux publics. Mais est-ce qu'ils lisaient pour passer le temps? Ou est-ce qu'ils lisaient parce qu'ils aimaient vraiment lire? C'est ça aussi, c'est que maintenant, pour passer le temps, bah, on a plus de choix. Ouais. On a des podcasts, on a de la musique, on a des écrans dans nos poches, on peut aller sur Internet et tout. Ce qui est, au final, lire aussi. Parce que là, on parle de lire des livres, mais quand t'es sur Internet, tu lis pas mal. Donc je sais pas, en fait c'est intéressant ce que tu dis sur il y a plein d'autres activités qu'on faisait beaucoup quand on était enfant et qu'on fait plus, mais qu'on n'essaye pas spécialement de récupérer dans notre vie, tu vois. Et c'est vrai que mes parents, même si eux ils avaient pas de smartphone, je les ai jamais vus bouquiner comme moi je bouquinais quand j'étais gamine. Tu vois, je connais pas d'adulte qui a cette boulimie de livres de tu rentres chez toi, tu balances ton sac, tu sors ton bouquin et j'existe plus, je me casse. Vraiment, ouais, ne
c'est
me parlez
vrai que
pas.
C'est hyper rare, mais c'était trop plaisant quoi.
Ouais, après, grave.
J'ai l'impression qu'il y a aussi tout un truc. Déjà, enfin, sur ce truc des activités, tu vois, qu'on avait enfant, qu'on essaye de retrouver adulte et tout. Moi, là, en ce moment, c'est un truc que je ressens vachement dans mon rapport au temps. Parce qu'avec les confinements, les restrictions sanitaires et tout, je vais plus boire de coups. Ce qui m'a fait gagner un temps fou dans ma vie.
Mais oui, c'est fou, hein.
Et donc, je me suis dit, trop bien, je vais apprendre à jouer de la batterie, je vais me remettre à l'italien, je vais faire plein de trucs, je vais devenir un surêtre humain et tout. Et je me suis dit, voilà, trop bien. Avant, j'avais jamais le temps de rien, notamment bah, voilà, la vie d'adulte, le taf, je sais pas, l'administratif, les trucs chiants qu'il faut faire. Recharger ton pack Navigo et boire des coups, évidemment. Et quand je me suis retrouvée avec tout ce nouveau temps devant moi en me disant, trop bien, je vais faire plein de trucs et tout, je me suis rendu compte que mon temps de concentration était devenu le temps de concentration d'un escargot. Genre, je sais pas, d'un animal qui a une mémoire de 5 secondes.
Un poisson rouge.
Ou en fait... Ah ouais, c'est plus approprié qu'un escargot. Genre. Merci.
Les escargots, ils doivent retenir où ils vont parce qu'ils mettent longtemps à y aller, donc peut-être qu'ils ont une super mémoire.
Eh bah écoute, merci de m'ouvrir.
C'est terminé, en fait.
Une thèse sur les escargots bientôt, Mimi.
Envoyez-moi les escargologues, dites-moi si j'ai raison ou tort sur la mémoire phénoménale de l'escargot.
Non, mais ouais, je sais pas, il y a ce truc des écrans. Pour moi, plus que le côté j'ai plus de facilité à zoner sur mon smartphone qu'à ouvrir un bouquin, il y a vraiment cet appel du smartphone ou de l'écran en permanence où en fait, si j'ouvre un bouquin et que je me pose, je vais faire « Ah, trop bien, je vais lire et tout, machin », je me pose dans mon lit. Et en fait, au bout de 10 minutes, quelle que soit la qualité de ce que je suis en train de lire, j'ai trop envie de savoir si j'ai une notif, s'il y a quelqu'un qui m'a écrit, s'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Genre vraiment, j'ai un espèce de truc où je vais checker mon portable toutes les deux secondes. Et évidemment, il y a toujours un truc sur mon portable parce que quelqu'un t'a envoyé un mème ou parce que t'as une notif d'un truc random, tu sais, des réseaux sociaux qui te disent « Machin a posté ceci !» alors que t'as rien demandé et du coup tu cliques. Et ensuite, c'est fini.
Ouais, non. Ensuite, c'est bon, t'es dans l'écosystème du smartphone. Tu n'en sortiras plus, il va toujours se passer quelque chose.
Et donc, c'est même pas tant par choix, tu vois, ou par flemme de me dire « Oh là là, je préfère mettre une série ou mettre mon téléphone que de lire un bouquin. » C'est vraiment par addiction.
Ouais, mais
par absence totale de contrôle.
Tu vois, genre les notifs et tout, c'est conçu pour te faire rester sur les plateformes. Donc, c'est littéralement un outil qui... Bah, ça prouve qu'il marche bien, mais on n'a pas forcément signé pour ces conneries, tu vois, au bout d'un moment. Personne n'a fait une consultation mondiale. On est chaud pour les notifs, on est chaud pour être collé à nos téléphones, ça vous va? Parce que vraiment, on va beaucoup taffer sur votre cerveau pour être sûr que vous soyez bien accro. Bon, bah, ça nous est un peu tombé dessus. Mais après, c'est peut-être un peu d'autodiscipline pour reprendre le pli aussi, tu vois.
Toi, t'as laissé les notifs pour Instagram qui te dit « machin a posté ça ».
Mais en fait, bon déjà, j'ai juste une auto.
Non, c'est vraiment. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, effectivement, je passerai ma vie sur mon téléphone, quoi.
Mais en fait, j'ai jamais cherché comment les désactiver.
Ah, c'est
parce
donc
que
la flemme.
La flemme.
Ah, je suis team flemme aussi. Ouais.
J'aimerais, tu vois, ça, c'est un métier pour lequel je serais prête à payer quelqu'un, tu vois. Genre, je lui donne mon portable et je lui dis, enlève tout.
Donne, Aïda.
Fais en sorte.
Y a pas de soucis. Faisons-le maintenant. On parlera facture après. Mais je te le fais vraiment désactiver des notifs, y a pas de problème. Y a pas un mode nuit ou ne pas déranger qui fait juste que t'as pas de notifs.
Bah, du coup, moi, je me mets en mode.
Mais là, on peut plus t'appeler. Si tu fais
mais
ne
qui
pas
appelle
déranger.
On est en 2021. Qui s'appelle?
Ah, je passe mes vieux téléphones. J'appelle des gens pendant 3-4 heures.
Ouais, moi aussi, j'appelle tout le temps mes vieux.
J'aime trop.
Même avant les confinements et tout.
Ah ouais?
Waouh.
C'est trop bien, les appels.
Bah ça, c'est aussi j'aime un truc pas. Que je faisais quand j'étais
c'est
gosse.
C'est pas que j'aimais pas, mais genre, mais après, je suis chelou. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé, je l'ai pas dit dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mèmes sur les gens qui détestent leurs voisins, parce que, enfin, qui veulent pas parler à leurs voisins, parce que moi, j'ai ce truc où je refuse de croiser mes voisins, j'aime pas ça, je préfère éviter. Et le téléphone, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai rien contre l'activité, tout comme j'ai rien contre l'activité parler à un voisin, mais je veux pas qu'elle me tombe dessus. Donc si mon téléphone, il sonne et que j'attends pas d'appel et que c'est pas quelqu'un de très proche, je suis là. Je m'en bats les couilles. Déjà, il est en silencieux tout le temps. Je le regarde sonner. Je fais « Laisse-moi un message. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête, je vais pas décrocher. » Et c'est plus... Alors, c'était une phobie avant. C'était un vrai blocage du téléphone. Ça me stressait beaucoup. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est juste ça me saoule. Je fais « Mais envoie-moi un mail, frère. » Enfin, j'ai plus d'activité dans ma vie où les gens se permettent de t'interrompre et de te solliciter à ce moment précis pour que tu leur accordes du temps. On a que des trucs asynchrones où on envoie des mails, on envoie des messages, des machins. Donc moi, je peux choisir quand je l'ouvre, quand je réponds. Le téléphone, c'est « Arrête tout maintenant !» Je fais « Ah non, je bosse !» Ou alors je fais absolument rien, mais j'ai pas envie d'arrêter de rien faire pour faire une autre activité. Alors du coup, je planifie mes coups de fil, telle une vieille personne. Je suis là « On s'appelle à 18h30, je suis dispo jusqu'à 19h15. »
Tu t'en défies.
Et du coup, si c'est plus, genre... Ça va, je peux le dire, elle écoute pas ce podcast. Hier, j'ai ma meilleure pote, je suis la pire meuf, ça fait 3 mois qu'on s'appelle et tout, c'est chaud, gros. Hier, j'ai ma meilleure pote qui m'a dit vers 17h, est-ce qu'on se fait un visio ce soir ? Moi, dans ma tête, j'étais là, alors, non, parce que ce soir, c'est la guerre des restos de Top Chef, et aussi que j'ai pas du tout l'énergie sociale de faire un visio, mais je peux pas lui dire non parce qu'il y a Top Chef, parce que c'est pas une bonne excuse. Donc je lui ai dit, alors oui, mais en première partie de soirée, et plutôt pas visio, plutôt hôtel, parce que les visios, ça me saoule. Et en fait, je lui ai dit, donc je suis dispo à 18h30 jusqu'à à peu près 19h15, mais après, je serai plus dispo. Elle m'a appelé à 19h. Dans ma tête, j'ai calculé, j'ai fait, non, on est assez près de la fin du créneau pour que ça me saoule de décrocher maintenant pour un quart d'heure. Donc, j'ai pas décroché. Et à 19h30, je lui ai dit, désolé, je t'ai pas dispo, je te rappelle demain. Enfin, pas demain, mais je te rappelle ce week-end. Et du coup, je vais la rappeler ce week-end alors que j'ai vraiment regardé mon téléphone sonner. J'étais en pyjama sur mon canapé, Top Chef ne commençait que dans 1h30. Et j'étais vraiment en mode, mais en fait, j'avais donné le moment où j'étais prête à faire une conversation téléphonique et il est fini quasiment, donc je vais pas le faire. J'ai pas envie, putain. Putain, Anthony me regarde. Genre.
C'est le masque. Vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois.
C'est un truc de fou.
Non, en vrai, je comprends grave. Enfin, il y a aussi un enjeu de consentement avec le téléphone où les gens s'immiscent dans ta vie à des moments où tu l'as pas forcément choisi, s'ils t'appellent par surprise.
Alors c'est comme les gens qui viennent sonner chez toi et qui disent bah, je crois que c'est dans le quartier. Genre, c'est hyper intrusif. Ça dans la vraie vie, tu vois.
Des psychopathes, genre le mec dans You, mais je sais pas quoi.
Moi je le faisais tout le temps quand j'étais petite.
Mais parce que c'était dans la campagne.
Oui, d'accord, ça passe.
Quand les gens ils vivent chez leurs parents,
tous les enfants sont des psychopathes.
Non, non, mais bien sûr.
Non, et puis c'était un autre moment où on n'avait pas forcément de téléphone et puis c'était copains, tes copines de l'école, donc tu peux aller sonner à leur porte.
C'est pas vraiment chez eux, tu vois, chez leurs parents.
Ils n'ont rien à faire, tu sais, c'est des enfants, quoi, j'avoue.
C'est vrai que je supporte pas ça. Personne vient sonner chez les
gens. Non, ça se fait plus. Mais pour moi, du coup, quelqu'un qui m'appelle sans prévenir, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu genre. Oui, ok, je pourrais te recevoir là tout de suite, mais préviens, c'est plus poli, quoi.
Je sais pas, moi, ça me fait plaisir, ça fait la petite surprise de la journée.
Oh, hello. Non, peut-être que je devrais ouvrir mon cœur à la surprise et répondre plus souvent au téléphone en espérant que ce ne soient pas des télémarketeurs qui veulent me vendre des assurances retraite.
N'ouvre pas trop ton cœur non plus, Mimi.
Mais c'est très générationnel aussi, je crois. Enfin, le rapport au téléphone, l'angoisse de décrocher les téléphones, les appels vocaux, en fait. On a effectivement perdu l'habitude et tout. Je crois qu'il y a plein de films d'horreur aussi où l'horreur vient du téléphone.
Ah ouais.
Ou en fait, tu décroches et c'est la voix qui respire fort ou des trucs comme ça, tu vois, genre c'est « Oh !»
Est-ce qu'on tient un article, là?
Avez-vous peur du téléphone à cause de Scream? Une enquête d'Anthony Vincent à lire sur Mademoiselle très bientôt. On a beaucoup digressé, on a parlé de lecture, mais pas que. Du coup, merci beaucoup pour ce kiff, Paola. Les meilleurs kiffs sont ceux qui font les longues digressions existentielles. Et qui nous permettent de déterminer quelle activité est de droite ou pas, évidemment grâce à Aïda.
La lecture est de gauche.
La lecture est de gauche, sauf si c'est un livre d'Éric Zemmour, auquel cas c'est de droite. Désolée, c'est la règle. Merci. À toi Aïda, c'est quoi ton kiff?
C'est à moi.
Est-ce que tu as changé d'avis du coup?
Je n'ai pas changé de kiff.
Très bien.
Je me suis dit que sinon ça allait être le bazar dans ma tête et que j'allais avoir des bugs terrifiants au micro et je vous épargnerai ça à toutes et à tous.
Très bien.
Alors mon kiff, c'est un livre... un livre qui s'appelle Love in Color, ou avec un accent british, Love in Color.
Incroyable, on croirait en Ralix, elle est parmi nous.
Refais-le. Love in Color. C'est encore plus nul la deuxième fois.
J'avoue, le one shot était beau, désolé.
Ouais, bah voilà, c'était spontané, maintenant c'est nul. du coup, c'est un livre, un recueil de petits récits, de petites nouvelles d'une autrice qui s'appelle Bolu Babalola. Qui est british et nigériane. Et je sais pas si vous la connaissez sur Twitter, mais c'est la meuf la plus drôle de Twitter. Il y a beaucoup de gens qui sont en compétition pour ce titre, dont moi. Et elle nous dépasse tous.
J'aime bien parce que tu dis tout ça, mais Aïda refuse toujours de vous donner son compte Twitter, donc peut-être que vous la suivez déjà. Elle est hilarante, vous ne le savez pas.
Je reste très anonyme sur Twitter, car c'est ce qui me permet d'insulter des gens. Ce que je ne ferais pas sous mon vrai nom. Bisous à Nadine Morano qui m'a bloquée.
En même temps, c'est pas grave, elle est de
droite. Je l'ai pas insultée, je lui ai dit ce que je pensais de ce qu'elle écrivait.
C'est mais elle est susceptible, Nadine, il faut le savoir.
C'est un honneur, du coup, d'être bloquée.
On est encore en train de faire une digression qui va vous donner des indices sur mon Twitter, donc je vais recadrer immédiatement cette conversation. Donc, Bolu Babalola, qui est une des meufs les plus drôles sur Terre et sur Twitter. Moi, je l'ai connue il y a quelques années, à l'époque où elle harcelait sexuellement Michael B. Jordan.
Je vois qui c'est.
Tu vois qui c'est?
Oui, oui. Alors, juste pour le contexte, quand
c'était
même.
C'était pas du harcèlement sexuel, voilà. C'était vraiment une grosse hyperbole de ma part.
C'est comme Lizzo qui a slidé dans les DM de Chris Evans il n'y a pas longtemps parce que elle était donc Chris Evans qui joue Captain America parce qu'elle était un peu bourrée et qu'elle lui elle a fait choix qu'elle lui a juste envoyé un emoji ou quoi mais elle a slidé dans ses DM en mode hey Chris Evans. Ce qui est un move que je pense beaucoup de femmes ont fait mais pas beaucoup ont une rep puisqu'il a fini par lui rep après qu'il y a eu des articles et tout, mais qu'il est très pure
classe.
Mais du coup oui, c'était pas du vrai harcèlement sexuel de Michael
B.
Jordan.
Non, pas du tout. En fait elle faisait des montages c'était l'époque où sur Twitter, il y avait plein de gens qui ressortaient des vieilles photos d'eux d'enfance et qui disaient ah, aidez-moi à retrouver telle personne ou aidez-moi à retrouver ce mec que j'ai pécho en festival et tout. Et donc elle avait fait un montage d'elle avec Michael B. Jordan en disant s'il vous plaît aidez-moi à retrouver ce mec que j'ai chopé en vacances.
Mood.
C'est l'amour de ma vie et tout.
Rappelons pour celles et ceux qui ne savent pas que Michael B. Jordan est un acteur très talentueux mais aussi plutôt agréable à regarder ma foi.
Extrêmement agréable.
Qui joue Killmonger dans Black Panther qui est peut-être un de ses rôles les plus connus en termes de blockbuster. Qui a fait plein de films très cool, qui a des fossettes et des abdos, et qui, bon... Oui, 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 Michael B. Jordan.
Mais... Oui, je pense à lui maintenant, et du coup, je suis déconcentrée.
Bref, fais ça aux gens, c'est vrai.
Du coup, ce truc-là était devenu viral et tout. Michael B. Jordan lui avait répondu sur Twitter. Ils avaient fini par se rencontrer dans la vraie vie.
Parce que
j'ai essayé sa technique.
Après, Boulou, elle est pas que stalkeuse de Michael B. Jordan sur Twitter. C'est aussi une autrice. Donc, elle a bossé sur des séries, notamment des scénarios et tout. Enfin, elle fait plein de choses. Elle écrit plein de trucs. Je crois qu'elle a écrit pour Days aussi. Et donc, à l'occasion d'un panel sur un film, je crois, elle avait fini par le rencontrer. Et l'histoire raconte qu'elle s'est mise debout en disant « Salut, c'est moi l'amour de ta vie ». Et qu'elle s'est prise une honte absolue.
Un immense vent.
Mais ils ont fait une photo ensemble et Twitter est devenu fou. Donc moi, c'est comme ça que j'ai découvert cette personne incroyable qui fait aussi beaucoup, beaucoup de blagues sur plein de séries que tout le monde regarde, des trucs style New Girl et tout. Du coup, elle est assez facile à comprendre. Évidemment, elle tweet en anglais puisqu'elle est britannique. Et elle a fini par écrire un bouquin qui s'appelle donc Love in Color et qui est un recueil d'histoires assez courtes qui revisite des histoires de... Alors, comment je vais expliquer ça en étant claire et en disant pas n'importe quoi ?
Ça va être super.
Elle revisite des contes tirés de mythologies qui sont des mythologies pas forcément très connues en Occident, notamment les grandes figures mythologiques d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, dans la culture Yoruba, dans le Moyen-Orient aussi. Enfin voilà, c'est des figures qui sont tirées la plupart du temps du monde qui n'est pas occidental. Donc déjà, c'est cool parce que ça nous apprend plein de choses. Et elle en fait des espèces d'histoires d'amour version 2020-2021, quoi. Donc y a des smartphones qui se mélangent à des histoires... des histoires de déités et tout. Et il s'avère que moi, je suis pas une grande fan de romance de manière générale. C'est pas trop les livres que je lis. Parce que voilà, c'est pas trop mon kiff et que de manière générale je ne lis que de la philo comme une grosse nerd.
Encore une fois, les stars de la cour de récré sont parmi vous, laisse-moi kiffer.
Moi, ma passion, c'est Lévinas, ok. Si vous avez envie de parler de Lévinas, envoyez-moi un DM, tout le monde s'en fout à part moi.
Mon copain fait son mémoire dessus.
Ah, je l'adore.
Je te jure que c'est vrai. Voilà,
je vais le dire. Il y a des gens qui doivent se le dire qui sont là. Putain, j'ai envie de googler, mais j'ai même pas vraiment compris comment ça s'écrit. C'est quoi le.
Lévinas, c'est un philosophe. Vraiment très cool, qui a écrit de très belles choses que je te recommande.
C'est l'un pour
l'autre. Je vais le noter dans ma liste de philosophes à suivre hein, finalement.
Mais c'est incompréhensible par contre. Perso, j'ai essayé de le lire, vraiment. Mais enfin, j'ai essayé, non.
Au moins une page.
J'ai ouvert un livre de mon copain parce qu'il fait vraiment son mémoire dessus, en parallèle avec Rosenzweig, si que je connais aussi par hasard.
Ah, je le connais pas.
Il fait un parallèle entre les deux sur la révélation. Enfin bon, c'est un truc théologique et tout. Et du coup, j'ai essayé de le lire pour voir. C'est incompréhensible si tu n'as pas des bases philosophiques, je trouve.
Ouais, c'est très possible.
Voilà.
Mais ayant fait des études de philosophie, parce que je suis pas de droite.
Genre, il n'y a pas de philosophe de droite.
Il y en a tellement.
Il y en a plein à la télé, wesh. C'est plutôt les livres en tête de gondole et tout, là, à chaque rentrée littéraire. C'est peut-être pour ça qu'on lit plus de livres. Hein.
D'ailleurs.
J'arrête.
Bon, bref, je suis encore en train de digresser, de raconter n'importe quoi. Donc, parlons de ce livre qui est incroyable. Je disais,
j'aime pas trop la romance. C'est pas trop tout le truc.
Et que souvent, ça m'intéresse pas trop. Et en fait, là, ce que cette autrice fait, c'est assez incroyable au sens où elle écrit de la romance d'une manière que moi, j'avais jamais lue avant. C'est un truc... C'est pas de la romance, enfin, c'est pas marketé comme un livre féministe, mais en vrai, la manière dont elle parle des relations, et notamment des relations hétéros, c'est d'une manière qui est hyper féministe. Moi, j'avais jamais lu ou vu d'histoire d'amour qui me faisait un peu kiffer, en mode « Ah, ça a l'air stylé, les trois quarts du temps, c'est un mec avec un hélicoptère super toxique qui chope une stagios et tout, enfin, je sais pas. » Pour moi, la romance, c'est ça, tu vois.
C'est quand même souvent ça, c'est vrai.
Merci de voir de quoi je parle.
J'aurais vraiment besoin de le citer. Mon Dieu.
Où souvent c'est des histoires, même les films d'amour et tout, les comédies romantiques, souvent c'est des trucs qui sont à moitié misogynes ou juste pas très intéressants.
C'est souvent basé sur il faut que ces personnages ne communiquent absolument pas pour aucune raison afin de créer des malentendus qui surréagissent beaucoup aux malentendus en question en partant généralement loin au lieu de discuter avec des gens à qui ils tiennent. Et effectivement, souvent le consentement n'est pas extrêmement invité au casting, quoi.
Exactement. Et du coup, ça a toujours été un souci, mais même, enfin voilà, au-delà de ça, c'était pas ma passion. Et en fait, là, elle parle d'amour d'une manière que moi j'ai rarement vue. dans des objets culturels que j'ai consommés. Et c'est cool, en fait, c'est juste trop bien d'avoir des personnages masculins dont tu comprends un peu ce qui se passe dans la tête, qui, genre, juste aiment des meufs, tu vois, mais d'une manière saine et cool. Et elles racontent un peu de plein de manières différentes la manière dont on a un peu tous et toutes envie d'être aimés, tu vois. Oh. Et c'est beau, et c'est sain. Et en plus, c'est très bien écrit. Elle écrit ça d'une manière super différente, de petite histoire en petite histoire. Donc, t'as des styles d'écriture différents, des setups différents. Il y a des trucs qui sont un peu, anachroniques. T'as des choses qui sont dans des environnements brumeux que tu comprends pas. Tu sais pas à quelle époque c'était. Il y en a d'autres qui se passent dans un truc très 2020. Enfin, voilà, tout se mélange un peu. Et c'est trop bien. Et pour les gens qui aiment Toni Morrison, par exemple, la première nouvelle, moi, j'ai trouvé ça trop bien parce que j'ai trouvé que c'était un mélange entre Toni Morrison et Gossip Girl. Et c'était le crossover que je n'attendais pas dans ma vie, mais qui m'a fait extrêmement kiffer. Voilà, tout est bien, on apprend plein de trucs, c'est trop cool. Et en plus, elle parle de meufs racisées et de meufs racisées qui se font regarder, respecter et aimer correctement. Et Dieu sait que ça manque dans l'environnement culturel dans lequel on évolue.
Pas que culturel.
Donc voilà, les maisons d'édition qui nous écoutent, si vous voulez traduire quelque chose de bien, n'hésitez pas.
C'est pas encore traduit en français ?
Non, c'est pas encore traduit en français. C'est disponible en France en anglais depuis peu, mais c'est pas traduit.
Bon, allez-y, bah, les niveaux A1 en anglais comme moi attendront. C'est pas grave.
Je te raconterai.
On va m'y dire.
Est-ce qu'elle est aussi drôle que sur Twitter ? Dans le livre ?
Elle n'est pas aussi drôle que sur Twitter, mais elle est un peu insolente quand même. C'est un peu marrant. Ah ouais. Mais beaucoup moins salée que sur Twitter.
Un peu insolente quand même. C'est joliment dit.
J'adore l'insolence.
Mais du coup, j'ai pas compris. Est-ce que les personnages, c'est des divinités ? Ou est-ce que c'est des histoires d'amour et les divinités, du coup, d'Afrique de l'Ouest ou du Moyen-Orient et tout, influent dessus ? Mais non, juste, c'est des... Enfin, pas forcément des divinités, mais les personnages, on va dire, des légendes. Est-ce que c'est eux les personnages des histoires d'amour ? Est-ce que c'est Zeus et Hera en 2020 en train de se prendre la tête parce que c'est un connard infidèle, Zeus ?
Ouais, globalement.
Ou est-ce que c'est Michel et Jeanne en 2020 et Zeus qui vient foutre la merde, tu vois, au milieu, quoi ?
Non, non, c'est vraiment les divinités qui font partie des histoires. Et du coup, voilà, t'as plein de twists un peu sur les mythes qu'on connaît plus ou moins. Il y en a un avec Eros et Psyché.
Oh.
Qui devrait un peu nous parler avec la figure de Vénus et tout. Et en fait, il bosse dans un magazine de mode et il se passe nimpe, c'est très drôle.
Wow.
Mais t'as aussi des histoires un peu... Enfin, tu vois, t'as Scheherazade aussi, la figure de Scheherazade qui est revisitée. Elle raconte des histoires à son mec qui est dans le coma et tout. Enfin, voilà, il se passe plein de trucs. Mais donc, c'est vraiment les divinités qui sont mises en scène. Et du coup, ça a dû lui demander un travail de recherche, je pense, assez ouf, tu vois, pour s'imprégner autant de... Pas des mythes, de la manière dont les personnages mythiques existaient et étaient exploités dans les différentes histoires, et d'en faire un truc à la fois facile à lire, à la fois très bien écrit, à la fois féministe et à la fois qui se lit en 2021. C'est un travail qui ne peut qu'être félicité.
Franchement, respect. Ouais. Ça donne très très envie.
De ouf.
Grave, deviens attaché de presse.
Non, parce qu'elle travaille écrire. Là et ah, qu'on oui, est content qu'elle travaille là, tu te souviens. On ne te poussons pas Aïda vers la sortie. Les gens.
Footballou.
Tu vas bosser dans l'édition après, mademoiselle.
Tu vas poser ta démission maintenant, en fait.
Non. Laissez-moi travailler ici. Arrêtez.
On te laisse, promis, on te garde. Bah écoute, c'est très cool, ça donne très envie.
Ah, trop
peut-être
bien.
Que. Mais c'est bien, on enchaîne, tu vois, comment réapprendre à aimer lire. Et là, bam, avec un super livre.
Ça mais oui,
c'est, ouais.
C'était presque c'est... prémédité.
Et on s'était incroyable. Même pas dit.
Ça aurait été prémédité si j'avais mieux préparé ce podcast. C'est juste un très heureux hasard. Merci Aïda pour ton kiff.
Merci à vous de m'avoir
merci
écouté.
Aïda.
Anthony, are you ready?
Bah ouais, mais moi c'est hors sujet.
Mais non, c'est pas hors mais sujet, il n'y a pas y a de pas thème dans hors sujet. Kalindi, elle a parlé de sa gardienne folle qui vient lui laver ses culottes et je suis même pas sûre que c'était. Oui, elle vient chez elle quand elle est pas là.
Mais
et...
c'était un kiff?
Faut je suis même pas sûre que c'était un kiff. Je pense que c'était une digression. Donc vraiment, tous les sujets sont permis dans.
Ok. Bon, bon ouais. Alors moi, c'est un peu moins glauque et creepy que Kalindi.
On est d'accord, elle est chelou, sa gardienne, merci.
Grave, mon Dieu. Ah,
la réalisation. Ah.
Pardon, excusez-moi. Non, parce que j'imaginais si mon gardien faisait la même chose.
Ah, c'est un délire. Hein.
Quoi
ah,
qu'il est sexy.
Sur le coup, il est culotte
sale. Mais non, ça reste.
Tu vois, c'est comme ça qu'on met un doigt dans l'engrenage. Kalindi, elle disait quoi qu'à la fin, mes culottes sont propres. J'ai pas eu à faire la lessive et après... Et après, voilà, ça devient bizarre, quoi.
Il y a des barrières qu'il faut pas faire tomber, je pense.
Et la gardienne en fait partie dans ta maison, en
ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, mon kiff du jour, ce serait Vinted. Ouais. Même si j'ai écrit un article sur le harcèlement sexuel sur Vinted il y a un mois sur Mademoiselle. Allez le lire, c'est hyper important.
Oui.
Sans vouloir faire de l'autopromo, mais bon, il est super et vous pouvez pas lui mettre 5 étoiles, mais mettez des commentaires.
Mettez des j'adore sur Facebook si vous avez 48 ans.
Grave.
Avec des petits cœurs.
Ouais, mais pour retrouver le post sur l'article.
On mettra le lien dans les notes. Non, c'est pas vrai. Le lien de l'article dans les notes du podcast. On va pas aller rechercher les posts Facebook.
Voilà,
les...
mais c'est facile à retrouver. Balance ton Vinted, qui est aussi un super compte Instagram pour dénoncer justement le harcèlement sexuel sur la plateforme et que la plateforme se bouge les miches. Mais sinon, mon kiff, c'est vraiment ouais, le chiner des fringues sur Vinted. Ouais. Genre, moi, j'ai un problème, c'est que j'aime rien de contemporain. Je suis vraiment un rabat-joie, mon Dieu. Mais non. Si, j'ai plein de qualités aussi. Mais en tout cas,
sur Vinted... Très bien entouré pour être rabat-joie, sache-le.
J'avoue. Au moins, ça pourrait être pire, tu n'es pas de droite.
C'est ça. Ça reste à prouver, hein, quand même.
C'est vrai que ça traîne beaucoup avec des millionnaires, quand même, pour quelqu'un de pas de droite.
T'es allé au Phuket.
Ouais, moi, bah ça laisse des marques.
T'as parlé à Marion Cotillard. Excuse-moi.
Marion Cotillard est de droite.
Elle est pas de droite, mais c'est une star. Donc c'est
tu peux pas être aussi
droite,
mais si, être pas de droite. Hein,
elle est un peu de droite quand même. Enfin, mais
elle,
bon,
elle est de droite écolo.
On fera un podcast.
Est-ce que ça passe pas finalement?
Bah, elle fait du social washing en fait. Mais oui.
Oh là là.
Je raye Marion Cotillard de la liste invitée prestigieux qu'on aura pour les 10 ans de LMK.
Elle ne fera pas soirée pyjama.
Mais Michael B. Jordan sera là à la place, donc ce sera une bonne soirée.
Oh, oui. Grave, fais un photomontage de lui avec toi sur Twitter.
Marqué l'amour de ma vie.
Et dis-nous où on peut trouver ce tweet.
Exactement la même chose que ce qui a déjà été fait il y a 10 ans.
Bah,
ça doit marcher pour ça.
Un hommage, c'est pas du plagiat.
J'ai juste photoshopé ma tête sur celle de Bolou et je vais laisser son corps. En mode aller, c'est plus facile.
On a des graphistes devant de l'heure, ça
va. Yes.
Mais j'allais le faire dès la sortie de ce podcast, genre dire, avec un photomontage de Jack Gilligan et moi, tu vois, genre dire, oui, c'est l'amour de ma vie, retrouvez-le s'il vous plaît.
Mais faisons tous ça ce soir, moi je propose
c'est parti.
Que ça
moi je prends Thomas immédiatement.
Ah, je te laisse, il a fait des photos cheloues sur MySpace et tout, non?
Bah oui, mais excuse-moi, il a un boule de ouf sur ses photos cheloues. Faut aimer les belles choses.
C'est vrai.
Oui, c'était un peu un douchebag où il prenait des photos de son cul dans le miroir avec une casquette, mais je veux dire, il est content de le faire, tu vois, c'est juste.
C'était les années 2000.
Voilà.
C'est très vintage maintenant.
Ouais, c'est trop vieux pour moi là, les gars. J'ai pas...
Ah oui, MySpace.
T'avais deux ans.
Oui, même pas.
Ok, bah c'est je me sens vieux.
Attends, vous aviez quel âge en 2000?
Je ne répondrai pas à cette question.
J'avais 9 ans.
Quel viol.
J'avais pas encore MySpace.
Quelle indignité.
Mais du coup, c'est quoi MySpace?
C'est l'ancêtre des réseaux sociaux et des Skyblogs et tout. C'était un espace personnel où tu pouvais créer ton espace personnel sur Internet, accessible à plein de gens et tu pouvais le personnaliser.
C'était quoi? Pas MSN? C'est pas ça?
Non. C'était avant MSN. C'était plus non, comme
en même temps. Moi, j'avais MySpace au lycée. J'ai pas 100 ans non plus.
Au lycée?
Moi, quand j'avais MSN, personne n'était sur MySpace.
Non, mais parce
attends,
mais que.
On était sur Skyblog.
Oui, mais MySpace, c'est Skyblog. Après, les Skyblog. Moi, j'ai eu un Skyblog au collège.
Non, mais ça a juste duré très longtemps et il y a eu plusieurs vagues de hype, quoi.
Bah, moi, j'étais emo au lycée.
Ah, c'est
moi, j'étais emo au collège.
J'étais sur
MySpace.
Oh, j'aurais jamais cramé, je te jure. C'est comme le signe astro.
Que j'étais emo.
Moi, ça m'étonne pas. Avoir autant d'opinions et être émo, ça m'étonne pas, tu
tout
vois.
Dans ma personnalité est émo, Paola, comment tu peux ne pas le voir?
Ah, je te jure, j'aurais jamais cramé ça.
J'avais les cheveux bleus et tout, c'est incroyable.
Ah, oh, trop stylé, on veut les photos.
Pour les collègues, avec Michael B. Jordan.
Une photo des cheveux bleus d'Aïda sera en note de ce podcast.
Ouais, c'est horrible. J'en ai fait tout un mythe, genre ouais, j'avais les cheveux bleus et tout. En vrai, j'avais pas du tout le droit de me tendre les cheveux. Du coup, j'avais des bombes.
Moi aussi, ma mère elle voulait trop pas que je traite les vaches.
En plus j'étais brune, du coup même toutes les colorations bleues et tout ça marchait pas du tout sur moi. Enfin, je suis encore brune d'ailleurs, mais
ça faisait des reflets.
Ah, c'était affreux.
Après, je ferai un épisode spécial nos hontes et nos kiffs de l'adolescence. Ce sera un bon épisode.
Ah,
trop
ouais.
Bien. Allez, go le faire sponsorisé par MSN.
Ou genre,
Back from the Dead.
Je reproduis mon look du lycée, tu vois.
Oh là là, personne n'a envie de voir ça.
Mais si. Non, j'ai personne.
Revenons à Vinted. Digressons trop. Anthony, du coup, Vinted.
Du coup, alors Vinted, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme de revente de vêtements de seconde main, du coup. Et il y a des gens qui vendent tout et n'importe quoi, des marques de fast fashion, mais aussi des marques de luxe. Et en fait, il s'avère que j'ai une passion pour la mode d'auteur, donc des gens qui vraiment ont une vision de la mode, de l'univers et tout, un peu des artistes du vêtement, voyez-vous. Et j'ai un peu une passion pour des artistes, des designers belges que personne ne... Enfin, qui sont pas hyper mainstream. Et du coup, il y a parfois des trésors sur Vinted. Et en fait, les gens belges, bah, pour eux, c'est les vêtements du coin, tu vois. Donc, ils vendent des trucs qui valent 2000 balles pour 50 euros.
Et le ma bon passion... plan, attention, tu vas donner ton bon plan à tout le monde.
Ah, j'avoue.
Tu vas pas dire le nom des designers.
Tu nous le diras en off, par
j'ai
contre.
J'ai trop envie de savoir, s'il te plaît.
Non, mais en vrai, ça vaut rien, enfin... Non, si, ça vaut beaucoup de choses, mais sentimentalement, tu vois, oui. Symboliquement, d'un point de vue artistique.
Oui, on n'est pas sur du luxe non plus, quoi, c'est ça?
Si, mais en fait, le luxe, qu'est-ce que ça veut dire, le luxe? Le luxe, c'est de droite.
Là, j'adore, c'est du fringue à 2000 balles, mais pas de droite, donc ça va.
Voilà, exactement. Donc,
si elles sont chinées, de l'art.
Elle coûte 2000 balles parce que c'est de l'art et que c'est produit en 3 exemplaires et demi et que ce n'est jamais acheté ni vendu. Mais ça coûte pas 2000 balles parce qu'ils se font une marge de malade. Et du coup, sur Vinted, ouais, je trouve des pépites de malades. Et à tel point que maintenant, j'ai paramétré des alertes de malades qui font que je suis au courant en premier dès qu'il y a un truc qui apparaît dans ma taille, de tel designer, dans telle pointure ou que sais-je. Et c'est même ma page d'accueil de navigateur. Donc quand j'ouvre Internet, wow. C'est genre les derniers résultats de Heider Ackermann en taille 38, 30, 40, 36. Wow.
Bon, maintenant, t'as donné le nom du designer. Désolée, tout le monde va se faire la même alerte.
Il faut que les gens sachent les plaies et tout. Donc...
C'est vrai, c'est vrai.
Bosser c'est un peu comme les vinasses, tu vois.
Ah mais Vinted, moi il y a un truc qui me... Parce que toi t'es réducteur, j'allais dire, bien sûr. Rédacteur de mode.
C'est la même chose, réducteur et rédacteur de mode. Je synthétise la pensée de Croatard, tu vois.
Je suis rédacteur de mode. Et du coup tu connais les noms et tout. Et Vinted c'est une mine d'or, mais moi j'y connais rien. Genre je suis pas capable de te dire un seul nom de marque, tu vois. Et du coup je passe à côté de Pépite, j'ai une pote, c'est pareil, elle est trop forte en mode, elle trouve des trucs de ouf, genre des manteaux roses avec de la fourrure noire et je trouve ça formidable. Et moi je ne trouve pas ça, je tombe vraiment sur les vieux t-shirts Lulu Castagnette, tu vois.
Ah le flashback.
Et ça me vénère parce que j'adore m'habiller bien, mais je sais pas comment trouver les beaux habits. Bah, du coup, si t'as des tips.
Alors, voilà. Premier tips, c'est justement utiliser tous les filtres qui sont à disposition. Donc, il y a la barre de recherche où tu peux taper manteau rouge avec un col noir, mais ce que tu peux faire. Enfin, non, ça marche pas comme ça.
Waouh, j'étais lancée, j'étais pour ouais, grave, je prenais des notes.
Et après, une fois que t'as tapé ça, tu fais quoi?
Non, justement, pas. J'allais dire l'inverse. Si tu sais ce que tu cherches, tu trouves plus facilement. Et ça, c'est comme dans la vie.
Ok. Yes. Ah, c'est beau.
Super.
C'est un peu enfoncé une porte ouverte, quand même. Mais, bon.
Mais est-ce que toi, ça t'arrive de flâner sur Vinted en
sans
mode,
but,
vais...
ouais. Tu perds ton temps. Enfin,
ok, on est d'accord. C'est dommage. Donc, il faut savoir. Mais donc, c'est... en fait, il faut chercher genre plein d'articles sur plein de designers à découvrir et tout pour pas avoir des gens qui coûtent trop cher. Et après, ces designers-là, si t'as bien ce qu'ils font, tu tapes leur nom dans Vinted et après, peut-être, tu auras ta taille, c'est ça c'est...
Plutôt que de taper le nom du designer, en fait, tu peux sélectionner par marque. Et du coup, si tu sais que tu veux... une veste courage en vinyle des années 90, ça revient grave à la mode, donc allez-y.
Je savais pas que je voulais ça, mais depuis que tu l'as dit, je le veux.
Ouais, non, c'est trop mignon, un peu rétro et tout, cropped avec le col officier, c'est trop trop beau. Et le vinyle, ça vieillit pas si bien que ça, mais il y a des pépites sur Vinted. Parce que c'est les meufs qui achetaient ça dans les années 60, bah, elles ont plutôt 60 ans aujourd'hui. Donc voilà, elles le mettent plus. Mais bref, je m'égare. Ce que j'allais dire, c'est, oui, utiliser des filtres à donf plutôt que de taper exactement ce que tu cherches dans la barre de recherche. Du coup, d'écrire manteau rouge avec un col rose, tu sélectionnes dans la catégorie manteau, ouais. Tu coches manteau. Après, tu sélectionnes la couleur rouge plutôt que de taper manteau rouge.
Ouais.
Et ça te permet de mieux filtrer que de taper exactement ta recherche.
C'est vrai.
T'es pas obligé d'avoir un designer, mais tu peux utiliser tous les filtres.
Ça, c'est ce que je fais déjà, mais c'est surtout pour le nom des... Enfin, tu sais, le nom des marques. Des marques. Enfin, par exemple, une marque de luxe de ouf. T'as pas un exemple? Genre, une marque trop bien.
Rapidfire.
Bah, juste... Non, mais il y a un autre truc d'ailleurs qui est intéressant, effectivement, parce que connaître le nom du designer plutôt que de la marque, ça peut être intéressant. Par exemple, si tu sais que t'as adoré l'esthétique de Phoebe Philo chez Céline.
Bah oui, bah
j'ai
oui.
Perdu tout le monde.
I love you, Paola, parce que vraiment, c'est moi, quoi. Je comprends tout ce que tu me dis.
J'ai même pas compris Céline.
C'est qui Céline?
Céline, l'auteur problématique.
Céline, qui est une maison de mode du groupe LVMH, il me semble, qui est aujourd'hui dirigée par un mec un peu border qui s'appelle Eddie Slimane, qui a été très talentueux. Mais...
Il est de droite, du coup.
Ah, il est problématique, Eddie Slimane?
Bah, c'est un génie commercial, dirons-nous.
Okay.
Et donc, voilà, il fait du merch, quoi, sauf que ça coûte 2000 euros.
D'accord.
Et avant lui, il y avait une femme brillantissime qui s'appelle Phoebe Philo, qui est une créatrice britannique. Et bien, si tu tapes Phoebe Philo dans Vinted, t'auras beaucoup plus de chances de tomber sur des belles pièces Céline que si tu tapes Céline, tu vois. Et donc, en fait, il faut juste que tu connaisses le nom des gens que t'aimes bien plutôt que de connaître le nom de la marque. Genre, Dior, il y a eu plein de gens qui sont succédés chez Dior. Mais si tu sais que t'as adoré l'esthétique de Marc Bohan ou de Tion Galliano ou bien de Raf Simons, tu vas trouver des trucs d'une période précise de Dior plutôt que de taper Dior.
Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire un tableau Excel.
Un Pinterest.
Et tu vas tous me les mettre par date. Voilà.
Mais c'est vrai que
non, mais c'est un
ça,
bon tip.
Hein.
Moi, en fait, quand t'es... Comme moi, je suis pas du tout... Genre, j'ai jamais de ma vie, je pense, choisi une fringue pour son designer. Je connais pas les designers, à part les grands noms, mais c'est de la culture G, quoi. Je sais pas à quoi ressemble leur style. Et jamais de la vie, je me serais dit, tiens, au lieu de... zoner dans des magasins en espérant trouver un truc qui m'attire l'œil ou des friperies ou des choses comme ça, je vais aller chercher plutôt des designers dont j'aime le boulot et ensuite chercher ces designers-là, qu'est-ce qu'ils font ailleurs. Parce que pour moi, direct, si tu me dis fringue de designer, je suis là, ok, c'est pas mon truc. Genre, c'est pas pour moi, j'y connais rien, ça va être fragile, atypique, faut le laver à la main, mon cul, ça va coûter 2000 euros, genre j'ai pas envie de faire ça, je vais aller m'acheter un t-shirt, tu vois, normal, dans un magasin normal, parce que c'est impressionnant, tu vois, créateur, t'es là... Oh, une chemise de créateur. Mais ça veut pas dire que c'est pas portable. Il doit y avoir des trucs très accessibles, quoi.
Ah ouais,
enfin, en tout cas sur Vinted, où en plus c'est de la seconde main.
Il y a plein de trucs qui ressemblent à du Zara ou du H&M. Enfin, il y a plein de trucs hyper normaux, banals, communs, tu vois. C'est pas parce que c'est un truc de designer que c'est oufissime ou quoi. Mais sur Vinted, c'est surtout que c'est les mêmes prix que la fast fashion.
Oui,
et ça, c'est chouette. Mmh. Ça, c'est vraiment chouette.
Ça, c'est ouf.
Et ça date d'il y a 5-6 ans ou plus encore. Et vraiment, il y a des pépites malades, quoi.
Mais des trucs, parce que les gens savent pas ce qu'ils vendent aussi souvent.
Bah justement,
c'est...
moi je...
Oui, il faut en profiter, je suis
les petites vieilles sur Vinted, c'est ma passion. Ok, sortie de son contexte,
ça fait bizarre. Sortie de route, on revient.
Non mais parce que...
Non mais en vrai,
fiche,
c'est
en
pareil
fait.
Partout, tu vois, comme le vintage revient à la mode, je veux dire, si tu fais une brocante et que t'as des petites mamies qui te vendent leur cuisine en formica parce qu'en fait elles en ont marre de l'avoir sous le nez et que pour elles, enfin... elles peuvent se débarrasser de leur putain de cuisine en formica. Tu vas avoir deux bobos parisiens de 28 ans qui arrivent et qui font « Ah, trop bien, le formica, c'est grave à la mode !» et qui vont le retaper pour le mettre dans leur magasin de couscous fusion, tu vois, c'est évident. Tout est cyclique, donc oui, il y a des gens qui vont vendre des trucs, mais tout comme moi, j'ai balancé plein de trucs dans les années, genre des années 90-2000, dans des trucs de recyclage de vêtements parce que je m'en battais les couilles, et maintenant ça revient à la mode. Mais bon, c'est compliqué de tout garder en pariant sur ce qui va... Je regrette un peu des fois, j'avoue.
Ah ouais. C'est comme nos parents qui ont tout balancé. Moi, franchement, c'est pas possible. J'ai envie de commettre un meurtre, là.
Mais vous vous rappelez...
Ils ont tout balancé.
Les joggings à bouton pression le long de la jambe.
Ça revient,
c'était
ça
trop bien.
Ça revient. Et mon père en avait des fils-là et tout. Et là, je les ai ressortis. Et c'est trop stylé, genre. Ça a défilé chez Chanel il y a un an, tu vois.
Les bons joggings de daron avec les boutons pression.
Mais c'est trop stylé. Moi, j'adore. Je valide.
Mais oui, non, mais je comprends. Mais c'est... Enfin, ça m'étonne. Je pense pas que c'est de l'arnaque. De rip-off les petites vieilles sur Vinted.
On les débarrasse, on les aide.
Voilà.
De ouf.
C'est
depuis. J'allais dire un truc horrible.
Du coup, est-ce que t'allais dire de toute façon elle meurt bientôt?
Bah oui, du coup on les aide.
T'as hésité à l'entendre.
Le tri, tu vois.
Autant que ça reste pas dans leur grenier. Hein.
Ce serait dommage. Puis bon, leurs gosses, ils ont peut-être autre chose à faire que de trier tout ça, tu vois.
Ça se trouve, ils s'habillent mal, leurs gosses.
En fait, c'est ça, c'est
truc.
Aider les héritiers. Finalement.
Exactement, c'est une bonne action. En fait, c'est de gauche.
Ah oui,
je suis le Robin des Bois de Vinted.
Acheter des vêtements de créateurs à des petites vieilles sur Vinted. De droite ou pas de droite?
Non, c'est
de
pas
gauche.
De droite.
Redistribution des richesses.
De ouf.
Écologie. Économie
éco-responsable. On achète des fringues de seconde main. On travaille beaucoup sur Vinted, à aller chercher et tout, tu vois. C'est pas un truc qui apparaît comme ça sans faire d'effort.
Bah, maintenant que j'ai paramétré les recherches,
c'est sa page d'accueil quand même.
Ouais, mais tu vois, ça c'est un effort que moi je ferais jamais avec mes notes.
Bah,
je cherche jamais des
notes.
Mazette, je sais pas comment tu fais.
Mazette, je dis aussi Mazette.
Mais oui,
je me retiens.
Mais ne vous retenez pas, Paola. Dites Mazette à tout va, enfant.
Ah, j'adore dire ça.
C'était très théâtral, ça.
Merci.
Molière, frétille dans sa tombe.
Je lui fais souvent cet effet.
À défaut d'aller au César, on ira au Molière. C'est moins.
Je sais pas s'il y a du coup Charlize Theron et tout, tu vois. Il y a sûrement plein de comédiens et comédiennes talentueuses que je connais pas.
Il y a Blanche Gardin, genre.
Il y a Thomas Jolly.
Blanche Gardin.
Oh,
personne connaît
Thomas Jolly,
mais si,
je l'aime bien.
Ah oui. Non, mais déjà, ça name drop des créateurs et des autrices. Ça va, on va pas commencer à name drop des gars qui font du théâtre. Après, c'est vraiment le podcast d'humiliation de nous. Quoi, je vais être là en mode yes.
Un podcast de niche où on dit tous un nom que personne d'autre ne connaît autour de la table, quoi. Là, c'est ce qui se passe depuis le début. Allez.
Non, mais c'est bien, ça fait un peu de culture générale, tu vois. Enfin.
Bah, j'avoue qu'en montant, je vais écrire les noms des créateurs que t'as cités.
Ah, vous avez ouf. Une semaine pour faire vos filtres Vinted avant que les LM Crado écoutent cet épisode.
Vraiment.
Mais ça m'est arrivé en fait, parce que parfois, j'avoue, je me je me la pète un peu sur Vinted, sur Twitter pardon, en disant waouh, j'ai chiné ce super truc et tout machin, ou alors oh, j'ai repéré telle pièce, j'attends juste la fin du mois, et en fait les gens l'achètent.
Mais faut jamais le dire avant.
Mais ouais, mais je suis trop bête, genre.
T'es tellement enthousiaste de partager ton bonheur et d'avoir des faves que du coup tu te crames toi-même.
C'est même pas pour les faves, c'est juste pour oui, partager mon bonheur, ça me procure de la joie.
Eh bien, merci de partager tes astuces Vinted avec maintenant toute une communauté. J'espère qu'ils vont pas juste niquer ta stratégie.
Grave.
Mais du coup, on est d'accord que, en fait, quand tu me dis Vinted, c'est ma page d'accueil, moi je me dis, ok, la personne doit être accro au shopping, tu vois. Mais au final, si tu cherches que des trucs précis, est-ce que, en fait, avoir Vinted en page d'accueil, c'est pas, même si c'est de la seconde main et tout, est-ce que c'est pas un truc qui t'incite, du coup, à consommer et à acheter plus de fringues? Ou est-ce que t'arrives à te contrôler parce que tu sais ce que tu cherches précisément et tu vas pas te faire avoir par. Ah mais ça c'est sympa aussi et puis c'est pas si cher sur Vinted, ce qui est le piège classique.
C'est grave un piège classique sur Vinted et d'ailleurs j'en parlais un peu plus tôt avec Paola, mais en fait la fast fashion, le rythme de la fast fashion est en train d'être reproduit sur les sites de seconde main parce que oui il y a des notifications qui disent oui machin a baissé de 2 euros son article, tu vois t'as des notifs pour tout et n'importe quoi, du coup t'as envie d'acheter et tout, tu dis ah ça va partir, c'est rare, tout est en édition limitée vu qu'il y a un seul exemplaire, enfin donc ouais les gens ont le même rythme que pour la fast fashion sur des sites de revente. Et ça, c'est un problème. Enfin, les gens, certaines personnes. Après, moi, c'est pas mon cas, parce que oui, j'avoue, des pièces d'un créateur dont je ne citerai pas le nom. Vous savez qu'à rembobiner. Bah, il y en a pas tous les 4 matins, et en plus, il a arrêté de créer depuis 2 ans. Je suis dévastée, genre, vraiment. Tous les 2 jours, je fais un tweet, après je l'efface, parce que c'est un peu la honte, mais disons que je pleure toutes les larmes de mon corps.
Est-ce que tu le hâtes à chaque fois?
Non, il est pas sur Twitter, mais il est sur Instagram. C'est le meilleur pote de Tilda Swinton. Mais bon, bref, pourquoi j'ai dit ça?
T'imagines, ta vie, c'est d'être le meilleur pote de Tilda Swinton. À quel point tu dois être cool pour être le meilleur pote de Tilda Swinton?
Et son autre meilleur pote, c'est Timothée Chalamet, genre. Le ça grand va. Écart socio-culturel. Non, mais
ça
non,
va
mais... C'est, tu vois, genre, ça dit que c'est une personne, genre, dans l'air du temps, mais pointue.
C'est et... qui la première, juste?
C'est une actrice, pardon, j'ai pas fait mon travail de contexte, de remise en contexte. C'est une actrice qui fait mi-blockbuster, mi-film d'auteur et tout. Et elle a un physique très atypique, elle doit être quinquagénaire, je pense, maintenant. Elle est très grande, blonde, elle a joué David Bowie dans un clip, elle ressemble un peu à David Bowie, okay. Elle est très impressionnante. C'est quoi, elle joue dans les Marvel, là, récemment, les Doctor Strange et tout.
Oh, bah, j'irai voir. Je la connais voilà. pas.
Elle a joué dans un superbe film de Luca Guadagnino qui s'appelle Io sono l'amore et qui est absolument sublime. Elle est bien en Jill Sander par Raph Simons. Mais bref.
Ces infos t'as dans ta tête, genre.
C'est grave.
Et elle a joué dans We Need to Talk About Kevin, qui est un film
oui.
peut-être un peu plus connu.
Ça, oui.
Et ouais, c'est une actrice très erratique, très grande, blonde, évanescente, genre blanc. Ses cheveux sont blancs, quoi. Je crois qu'elle est écossaise de mémoire, je sais plus, j'ai un doute. Mais ouais, elle est sublime.
Ok, bon, bah, j'irai voir cette sublime actrice très douée.
Et c'est la muse de l'acteur, de créateur dont je ne prononcerai pas le nom.
Mon Dieu, tout le temps de liens.
Oui, pour répondre à ta question, Vinted, non, j'achète pas des vêtements tous les 4 matins.
Ok, donc on peut avoir Vinted en page d'accueil sans se retrouver dans une spirale infernale de oulala.
Voilà.
Oulala, les livreurs n'arrêtent pas de sonner, oulala, j'ai honte.
Voilà, parce que du coup, je vois les nouvelles choses qui correspondent à ma recherche, mais il y en a une tous les 2 mois, quoi.
Ok.
Mais du coup, je saute dessus.
N'hésitez pas cet été à faire les placards des gens chez vous pour voir s'il n'y a pas de très belles pièces de designer belge à vendre à Anthony sur Vinted. Peut-être que ça vous payera votre année d'études l'année prochaine, si vous en trouvez assez, vu qu'apparemment il n'y a pas un flux constant de nouveautés.
Non, malheureusement.
Peut-être qu'il y a un trésor quelque part qui t'attend.
Fouillez les placards de vos grands-mères.
Voilà. Et prenez tout ce qui a l'air un peu à la mode en 2021.
Mais faites gaffe par rapport aux impôts.
Ah oui, parce que maintenant, apparemment, ce que tu as vendu sur Vinted se retrouve sur tes impôts. Ce qui me ravit, car j'ai toujours eu la flemme de faire Vinted, vraiment. À chaque fois, je me dis, bah, c'est vrai qu'au lieu de donner mes fringues, je pourrais genre les vendre sur Vinted, parce qu'elles sont rarement abîmées et tout. Puis après, je me projette dans, attends, donc je vais devoir négocier des t-shirts à 2 euros, parce que des gens vont vouloir négocier, déjà ça va me saouler. Et en plus, je vais devoir envoyer 1 milliard de colis à la poste, ce qui va me saouler aussi, parce qu'il faut aller à la poste. Donc j'ai abandonné l'idée de... Ça ne vaut pas l'effort, je pense. Les quelques euros que je vais avoir en vendant des t-shirts H&M, c'est pas grave.
Ouais, et puis on n'est pas obligé d'être dans le développement personnel, Startup Nation, de tout ce qu'on fait. On peut aussi donner des vêtements.
Ouais, de ouf.
Oui, carrément. Après, si un jour je me rends compte que j'ai une pièce un peu cool, peut-être que je la mettrai sur Vinted pour l'amour des gens qui aiment les belles choses. Mais bon, ça va pas être chez moi, plutôt chez ma daronne, je pense.
Non, et puis tu peux tout vendre aussi. Il y a des gens qui vendent leurs jeux de Nintendo DS, leurs cartes Pokémon.
Ouais, ah bon
ouais, tu peux vendre aussi.
Ah, j'ai raté que Vinted était devenu le bon coin, d'accord.
Ouais,
ici, c'est un peu ça. Hein.
Ouais, grave.
Très bien.
Vraiment, tout, c'est terrifiant sur ce truc de Vinted.
J'ai bien fait de me désinscrire. Je sentais la pente glissante. Je me suis inscrite confinement 1, j'ai fait non. On va pas commencer à faire ça, on a que ça à foutre. C'est pas
confinement bien. 1, personne pouvait te livrer, donc bon.
Si, on pouvait commander, non?
Il y avait la poste, non?
Ah ouais
1, ouais, ouais, il me semble que t'avais le droit.
Parce que c'était, les délais étaient quand même...
On est au stade, on est là, attends, confinement 1, comment est-ce que c'est? Je suis pas sûre que s'il y a un an, on nous avait dit, dans un an, vous serez en train de vous demander à quel confinement on pouvait faire quel truc, je pense qu'on aurait un peu déprimé.
Parce qu'il y a des gens qui faisaient des mèmes là-dessus sur Twitter, et nous, on était tous là, t'abuses.
Comme si, dans un an, c'était toujours là.
Moi, je pensais que ça durerait 3 semaines, hein, mais bon, je faisais partie de ces gens. Vraiment, une pandémie mondiale, c'était rien.
Du coup, merci Anthony pour
c'est
ce
quoi
kiff
ton kiff
sur Vinted. Alors moi, mon kiff, j'ai un problème parce que je viens de changer de kiff là immédiatement. Donc j'ai fait ça. C'est une, du coup, ça a posé une question de timing un peu chiante dans ma vie, mais c'est pas grave. Je vous en dirai plus dans le prochain épisode les LM Crado. Du coup, mon kiff de cette semaine, c'est un forum en 2021, un immense forum et en même temps pas si grand, puisque c'est la section France de Reddit. Donc Reddit, c'est un immense forum des internets où n'importe qui peut créer son subreddit, donc son sous-forum, avec la thématique qui l'intéresse. Et donc il y a énormément de subreddits. C'est une plateforme que moi j'aime bien parce que j'ai jamais perdu de vue le... Moi j'ai toujours bien aimé les forums, ça se fait plus trop, mais j'aime bien. Et je trouve que c'est un des endroits où c'est le plus simple d'avoir des... Enfin, qui est quand même toujours conçu pour avoir des discussions. Là où les réseaux sociaux, en fait, c'est pas forcément beaucoup conçu pour ça, en tout cas pas pour échanger avec des inconnus. Mmh. C'est beaucoup pour parler aux gens que tu connais, ou alors c'est des trucs visuels comme Instagram, ou très courts comme Twitter. Les forums, c'est un peu l'endroit d'Internet où le but, c'est d'écrire des trucs plus ou moins longs, et pas forcément... C'est le contenu qui est mis en avant, et pas forcément les personnes, quoi. T'as pas un profil que tu peux, genre, customiser, c'est pas vraiment du personal branding. C'est plus les faits et les opinions et le verbiage, donc j'aime beaucoup Reddit. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de Reddit France sur LMK, alors j'avais parlé de 2 ou 3 autres subreddits, et que, alors j'en parle pour 2 raisons. La première, c'est parce que sincèrement, c'est un kiff, c'est un des endroits d'internet où je passe le plus de temps, et aussi parce que j'ai le petit espoir que plus de LM crado, c'est-à-dire de gens qui peut-être ne sont pas des développeurs blancs de 35 ans, aillent s'inscrire sur Reddit France et participent aux conversations, parce que la démographie est quand même... Comme Reddit, ça reste un peu niche, et ça l'était encore plus il y a quelques années. Ça reste quand même, voilà, c'est des gens qui connaissent Internet, qui s'intéressent à l'informatique et tout, qui étaient à la base, même si la démographie est en train de changer. Et en fait, moi, je vais sur Reddit France tout le temps. Je poste jamais, parce que je poste jamais sur Internet. En vrai, je suis très sous-marin, mais je suis peu active, mais j'adore lire les gens. Et j'adore lire les opinions des gens. Genre, dès que je finis un film, je vais aller voir sur Reddit qu'est-ce que les gens en ont dit et tout. Ça me fait plaisir, ça enrichit la réflexion que j'ai. Et du coup, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup Reddit France parce que c'est le seul endroit d'Internet, à part le forum Mademoiselle, mais qui est non mixte, où on peut débattre de politique et de sujets d'actualité française. Alors, est-ce parfois de droite? Oui.
J'ai tellement d'opinions sur Reddit France, Mimi.
Non, mais je dis vraiment pas que c'est un subreddit de gauche. Mais en fait, je sais pas où d'autres sur Internet. Tu peux aller avoir un débat avec des inconnus, mais qui sont français aussi, sur des trucs d'actualité comme la gestion du Covid ou les états généraux de la laïcité qu'il y a en ce moment, mais aussi des trucs plus légers, des trucs positifs. Enfin, il y a de tout sur Reddit France. Il y a aussi des posts qui sont pas d'actualité où les gens ils viennent juste raconter un truc de leur vie ou demander de l'aide ou des conseils. Et il y a des activités, genre tous les samedis c'est écriture. Tous les jours, il y a le forum libre où c'est juste pour papoter, où du coup, là, tu vas retrouver un peu les habitués. Mais tu peux être un habitué du topic forum libre et juste papoter et jamais aller parler de politique sous les sujets politiques. Et en fait, je vois pas trop d'autres endroits dans l'internet francophone où tu peux faire ça. Et au final, enfin, il y a Twitter, mais je trouve que Twitter, c'est vraiment... C'est pas fait pour, en fait. C'est pas fait pour avoir une discussion. C'est fait pour réagir à des choses. Donc, si par exemple, voilà, ce soir, à l'heure où on enregistre, ce soir, il y a Jean Castex qui parle. Sur Twitter, je sais que je vais avoir des mèmes et des gens qui sont très d'accord ou très pas d'accord avec Jean Castex, mais quand même beaucoup des blagues et des mèmes. Ou des gens indignés, selon ce qu'il dit. Sur Instagram, tout le monde s'en battra les couilles parce que globalement, dans mes stories Insta, en tout cas, il n'y a pas de commentaires politiques des annonces du gouvernement du Covid. C'est plus « Est-ce qu'on peut aller en terrasse ?» Oui ou non. Voilà, c'est à peu près la prise de tête. Et sur YouTube, il n'y a pas d'interaction puisque c'est une seule personne qui te parle et que les commentaires YouTube, on sait à quoi ça ressemble. Et en fait, les médias qui parlent de politique, enfin, les médias ont quasiment tous fermé leur section commentaires parce que c'est très compliqué à gérer. Qu'il faut de la modération et tout ça avec les gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent juste polluer les trucs, donc c'est impossible d'avoir une discussion un tant soit peu, je sais pas, utile. Alors que voilà, sur Reddit France, en fait, je sais que quand il se passe des trucs dans l'actualité mondiale ou française, mais en tout cas qui touchent la France, il va sûrement y avoir quelqu'un qui l'a posté. Alors, ils ont un petit filtre où il faut que tu sois actif à un certain niveau pour pouvoir poster des liens. Parce qu'ils se sont rendus compte que sinon, bah, typiquement, les gens d'extrême droite se réunissaient et faisaient des raids où ils allaient poster plein d'actualités, entre guillemets, qui soit viennent de sites d'extrême droite, soit qui font le jeu de l'extrême droite. Genre, il y a eu un moment où à chaque fois qu'il y avait un fait divers, c'était le moment où Darmanin, il s'est dit qu'il allait parler de l'ensauvagement de la France, parce qu'on n'est plus chez nous et on est en danger. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un fait divers de violence intra-urbaine, mais évidemment toujours perpétrée par le même profil de jeunes de banlieue, il y avait un post sur Reddit, et du coup ça faisait un genre, mais même des trucs dont on s'en bat les couilles, genre un gars a volé la baguette d'une meuf à Montargis, tu vois, j'étais là. En fait, normalement ce serait pas sur Reddit France, parce que c'est pas un sujet d'importance nationale à part pour les gens de Montargis. Et donc il y avait un genre de vendetta pour nourrir ce sentiment de regarder, c'est bien la preuve qu'en France c'est dangereux et qu'il faut sévir, quoi. Et donc maintenant ils ont un peu, enfin tu sens que les modérateurs, qui sont en plus tous bénévoles comme toujours sur Reddit, chaque subreddit est autogéré par des modérateurs de la communauté, sauf cas très graves de qui du coup peuvent bannir, accepter, supprimer les messages et tout, sauf cas très graves de vraiment, je sais pas, si quelqu'un met du pédoporn sur Reddit France, je pense que Reddit tout court va s'en occuper. Mais sinon, c'est à chaque communauté de faire son truc. C'est pour ça que sur Reddit, on va avoir des communautés très très engagées, très très de gauche, et des trucs complètement d'extrême droite, parce qu'en fait, Reddit n'a pas de ligne politique. Il laisse tout passer, donc okay. il peut y avoir de tout. Et donc sur Reddit France, certes, c'est pas toujours de gauche, c'est parfois de droite, mais au moins je sais que voilà, si ce soir Castex annonce des trucs, bah je vais pouvoir en parler avec mes potes. Mais en fait, là où je pourrais voir des Français normaux qui sont ni éditorialistes, ni journalistes, ni spécialistes, ni rien, en parler, ça a un côté un peu micro-trottoir, bah ça va être sur Reddit France, quoi. Et il n'y a pas trop d'autres endroits où tu peux avoir des discussions, en tout cas. Tu peux avoir des avis pertinents sur les réseaux parce que les gens vont donner leur propre avis, mais tu auras rarement des discussions très constructives. Et bah, la différence du forum Mademoiselle, Reddit France, c'est mixte. C'est même, je pense, sur la démographie, il me semble, il y avait eu un sondage il y a quelques années. C'est une majorité masculine, pas énorme, mais une belle majorité masculine quand même. Et voilà, plutôt des mecs dans la tech et tout. Donc ça colore les discours, forcément, qui vont y être prédominants. Parce que Reddit, ça marche avec un système d'upvote et de downvote. Normalement, la règle, c'est que tu upvotes ce qui est pertinent pour la discussion et tu downvotes ce qui ne l'est pas. Donc, tu vas aller downvoter un spam ou quelqu'un qui fait juste une blague nulle ou qui insulte quelqu'un, et tu vas aller upvoter un truc qui est intéressant, même si t'es pas d'accord avec. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que les gens downvotent ceux avec quoi ils sont pas d'accord et ils upvotent ceux avec quoi ils sont d'accord, parce que c'est l'humanité. Donc, c'est pas un filtre très efficace, mais ça permet de voir un peu c'est quoi les opinions majoritaires sur le sous-Reddit. Et alors, on peut en parler, Aïda, je pense que tu as des choses à dire. Je vois une certaine évolution où il y a quelques années, il n'y avait pas de sujet féministe, il y avait quasiment toutes les meufs féministes de Reddit France qui sont parties, qui ont créé leur propre subreddit qui s'appelle Féminisme pour parler de féminisme en français, parce que c'était impossible de le faire sur Reddit, parce que juste beaucoup de trolls et puis voilà, pas des discussions très constructives, alors que maintenant, quelques années plus tard, on a toujours féminisme qui existe dans un coin, mais il peut y avoir des sujets liés aux droits des femmes qui sont discutés de façon plus constructive qu'à une certaine époque. Donc je me dis, c'est aussi la preuve que les mentalités évoluent, que les messages commencent à passer. Mais oui, Aïda, je suis d'accord avec toi, c'est pas...
J'ai absolument rien dit.
Vas-y, du coup, Aïda, que penses-tu de Reddit France? Je suis sûre que tu as beaucoup de choses très positives à en dire.
Non, en plus, en vrai, j'ai pas mis le truc à dire sur Reddit France, parce que moi, je suis beaucoup sur les Reddit anglophones. Mon premier passage sur LMK, j'avais d'ailleurs parlé d'un subreddit qui est Am I the Asshole, qui est très bien, qui est un thread Reddit où on juge des gens, qui racontent des situations de leur vie.
J'ai fait ça, on m'a dit que j'étais un connard d'avoir fait ça, c'est quoi votre avis? Et du coup, c'est tout le temps une histoire hyper croustillante, t'es là, mais quoi?
C'est génial. Est-ce que je regrette de ne pas parler anglais?
Bon, je te traduirai les meilleurs.
Ah oui.
Et donc, ouais, Reddit France, moi, quand j'ai commencé à découvrir... Parce qu'avant, en fait, j'étais pas sur Reddit, j'étais sur les comptes Twitter qui reprenaient le meilleur de Reddit et qui en faisaient des petites sélections. Et du coup, je me suis mise pour de vrai sur Reddit quand j'étais au chômage.
C'était
le bon moment pour me mettre sur ce truc, sur l'appli et tout. Et c'est là que j'ai découvert Reddit France. Et en fait, je crois que c'est le moment où il y avait que des gens d'extrême droite sur ce truc.
Il y en a encore régulièrement, surtout le week-end. C'est même connu maintenant sur Reddit France, parce que le week-end, il y a plus de gens qui ont le temps. Du coup, la modération a un peu plus de mal à suivre. Et le week-end, tu sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires très fachos, mais tu reviens 2 heures après, il n'y a plus rien, tu vois, parce que les modérateurs ont eu le temps de passer. Mais du coup, c'est un peu une vanne. Le week-end, dès qu'il y a un commentaire d'extrême droite, les gens font « Ah oui, c'est le week-end, très bien. Bienvenue, on va vous modérer dans 2 heures, mais du coup, en attendant, vous êtes là. »
Lâchez-vous.
Ouais, je pense que c'est... Enfin, je pense qu'en tout cas, il y a eu pas mal de changements, parce que moi, j'étais vraiment en mode, j'ouvrais l'appli, je voyais ce Reddit France qui m'était conseillé par l'algo, parce que j'étais pas forcément dessus, et je voyais que des trucs de l'enfer, des fausses captures d'écran BFM TV qui parlaient de grands remplacements.
Ah oui, non, maintenant,
seconde.
Ils ont beaucoup taffé sur les sources et sourcer les trucs, et notamment, ils ont fait un truc que je trouve pas mal, qui est que quand tu postes un article, tu peux pas changer le titre. Parce qu'en fait, avant, tu pouvais mettre le lien, mais mettre le titre que tu voulais. Maintenant, t'es obligé de garder le titre du média, donc tu peux pas éditorialiser le propos. Toi, en tant que juste utilisateur, tu donnes le contenu comme le média l'a donné. Il privilégie, en fait, au lieu d'envoyer un tweet qui commente un article, ben, envoie l'article. Et comme ça, les gens, ils donnent leur avis, ils donnent ton avis en commentaire, à la limite, mais... Enfin, évitons les liens Twitter qui servent juste à donner un contenu qui est déjà à dispo, en fait, sur un média, parce qu'en plus, c'est un côté un peu... On sait que les gens, ils vont pas cliquer, ils vont commenter sans lire, donc... Si en plus, ils doivent faire deux clics, tu vois, ils vont pas... Donc ils font un peu des efforts par rapport à une certaine période, notamment sur l'aspect fake news très... Ouais, capture d'écran WhatsApp que ton tonton il t'envoie et où t'es
ouais,
là...
Ouais, c'était un
tonton,
peu dark. Je me disais, ok, bon, bah, en France, les seuls utilisateurs de Reddit, c'est des mascus complotistes d'extrême droite. Et,
le
et
parfait
en fait...
Combo, là.
Ça fait rêver.
Vraiment. Ma passion. Non, mais du coup, c'est cool si tu dis que ça a un peu changé. Et en vrai, t'as raison aussi sur ce truc d'évolution des discours, où c'est vrai que moi, j'aime bien, comme toi, aller checker un peu ce qui se passe dans la tête des gens et ce que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi pensent. Un petit peu pas d'accord avec moi, pas trop non plus, parce que sinon, ça me saoule. Parce que du coup, ils ont tort.
Je suis en colère.
Du coup, je perds mon temps, parce que de toute façon, ils ont tort. Donc quand ils sont juste un peu pas d'accord, je regarde. Et
J'adore cette vision du débat politique.
Ouais, vraiment. Écoute, il s'avère que de plus en plus de gens sont un peu pas d'accord avec moi, et pas énormément comme avant, notamment sur Reddit.
Ça avance.
Et il y a plein d'éléments de langage. Alors après, ça a ses limites, tu vois. Reprendre des éléments de langage parce que c'est ce qu'il faut dire, et sans forcément avoir les actions derrière qui matchent le discours, c'est assez récurrent aussi, tu vois. Mais
Tu veux dire qu'ils utilisent les éléments du langage féministe, mais ça veut pas dire qu'ils ont changé leur pratique en profondeur. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que, enfin. Je veux vraiment pas donner la mauvaise idée aux LM Crado qui vont peut-être après passer un moment chelou sur Internet. Je suis pas en train de dire que Reddit France est un forum spécialement de gauche ou spécialement progressiste. Mais je pense qu'il est un bon reflet d'une certaine tranche de la population française. Hein. Clairement, c'est pas tout le monde. Et que bah, c'est pas une frange à laquelle moi, dans mes petites bulles féministes, progressistes, je suis si souvent confrontée. Donc c'est pas plus mal. Mais faut pas y aller en espérant n'avoir aucun pic de tension. Quoi. Les pics de tension vont arriver.
Faut y aller pour s'apaiser, quoi.
Non, non, mais globalement, faut pas aller lire des gens parler de politique sur Internet pour s'apaiser. Hein.
Oui, c'est ça.
Faut pas y aller sur le week-end, en plus, surtout.
Ouais,
oui, en plus, faut pas... Enfin, si, parce que du coup, il y a aussi beaucoup d'autres contenus. Il y a plus de contenus, mais parmi ce contenu, il y a un peu plus de contenus d'extrême droite. C'est Internet.
Et si la discussion est possible, en vrai, je trouve ça intéressant parce que tu viens de le dire, on a l'habitude que les gens soient d'accord avec nous. Enfin, moi, perso, je m'entoure pas de mascu, pas du tout progressiste, complotiste. Enfin, c'est pas mes meilleurs amis, quoi. Disons que.
C'est super.
Disons que c'est pas là. C'est
juste des potes.
C'est ça. Potes éloignés, vraiment, man. Et du coup, ça peut être intéressant d'être en contact avec ces gens-là et d'essayer de discuter s'ils sont un peu pas d'accord.
Après, le truc, c'est que moi, ma position, elle est confortable puisque je suis juste en sous-marin. Donc, en fait, je suis jamais impliquée et c'est pour ça que ça m'énerve pas. Je veux dire, il y a des gens qui disent des énormités pour moi, mais je suis là, bah, ok, juste, il est pas. Enfin, bon, ok, il y a des gens qui pensent ça, mais c'est pas moi qui vais devoir me taper tout le boulot de lui répondre, d'argumenter, d'espérer que c'est pas un con qui vient juste troller et qu'en fait, il est prêt à écouter un autre point de vue sur le monde et à le respecter sans dire qu'il va changer d'avis. Mais en tout cas, enfin, tu vois, c'est un peu une baleine, quelqu'un sur Internet qui dit. Oh, j'avais jamais vu les choses comme toi, je vais y réfléchir. Quoi. Généralement, ça ne se passe pas comme ça, surtout quand on parle politique ou d'actualité française. Mais du coup, c'est pas moi qui fais ce taf-là, c'est quelqu'un d'autre. Ou des fois, non, tu vois, des fois, il n'y a personne qui les remet en question. Et il n'y a pas un moment où je me dis, bon, bah, du coup, il faut que j'y aille, c'est ma mission, tu vois. Moi, je suis juste vraiment relax, je suis en mode, oh, ok, il y a encore des gens qui pensent ça. Bon.
Mais juste regarder, ça t'énerve pas?
Ouais, c'est ça en fait. Moi, quand je lis les commentaires sur
Facebook, genre des fois, oui, tu vois, oui, si, des fois, enfin, ça dépend de ce qu'ils disent, tu vois, mais clairement, il y a des opinions et des avis qui me hérissent et qui m'énervent. Mais déjà, je pense qu'ils m'énervent moins sur Reddit où il y a un peu plus de répondants constructifs que sur Twitter, où en fait, je me dis, sur Twitter, si je vois un tweet qui m'indigne, Je sais très bien que je vais le revoir passer 18 fois dans la même journée parce que tout le monde l'aura retweeté pour dire que c'est vraiment indignant, donc déjà ça me saoule. Là, les personnes qui répondent sur Reddit, soit elles le font avec humour, alors ça marche ou pas, mais elles essayent, soit elles prennent le temps d'argumenter, bah, un peu comme les mademoiselles, tu vois, sur le forum mademoiselle, elles vont te faire des putains de pavés, genre quelqu'un vient poser un commentaire troll d'une phrase, elles sont là, je fais... quand même expliquer pourquoi c'est pas vrai et vraiment reprendre les choses du début.
On va tout déconstruire.
Tout déconstruire encore dans cette nouvelle arrivée sur le forum. Et là, du coup, il y a un peu ça sur Reddit où, bah, comme en plus, il y a quand même une curation qui est faite par la communauté. Et pour le coup, la communauté aime bien les gens qui font l'effort de bien s'exprimer et tout. Tu vois, ça va plus être upvoté quelqu'un de gauche mais qui défend son sujet que quelqu'un de droite qui vient juste dire « lol, les islamo-gauchistes », tu vois. Même les gens d'accord avec lui, ils vont dire « bah, c'est pas intéressant de dire ça sur Reddit, on n'est pas là pour ça ». On est là pour ce... C'est un peu débat PMU, j'avoue. Mais en même temps, on peut plus aller au PMU, donc...
Ouais, voilà.
C'est ouf.
Depuis les confinements, c'est vraiment le meilleur palliatif, quoi. Mais j'ai une question, enfin, ça m'interroge sur un point, je me dis, est-ce que les gens d'extrême-gauche trollent autant que les gens d'extrême-droite, d'une part, et d'autre part...
Non mais on va faire un nouvel on va faire un podcast dédié là, c'est quoi ça? C'est une excellente question.
Est-ce que les gens
troller c'est de
gauche,
droite?
Bah mais oui en fait, c'est ce que j'allais dire. Enfin c'était ma conclusion, c'est pardon, en fait les gens d'extrême droite, ils sont clairement déjà on dirait qu'ils ont beaucoup de temps. Voilà, pas beaucoup d'amis peut-être et tant mieux. Mais du coup en fait est-ce que les gens d'extrême gauche vont s'amuser à faire des threads et dire regardez des fake news sur une utopie zadiste genre il n'y a que la droite qui fait ça, on est d'accord?
Alors, la gauche n'est quand même pas exempte de choisir et parfois bien twister les infos qui vont dans son sens et celles qui ne vont pas, tu vois. Donc, il n'y a pas toujours une honnêteté intellectuelle irréprochable, je dirais, à gauche. Après, je pense que dans le mécanique du troll et du troll organisé, du raid où plusieurs personnes vont s'organiser pour aller attaquer des personnes parce qu'elles ne pensent pas comme elles, je pense que dans cette démarche, il y a une forme de violence qui sera peut-être un peu plus légitimée à droite que à gauche. Tu vois, genre, tu peux pas être de gauche et passer ta vie à dire le cyberharcèlement, c'est pas bien. Et après, parler aux mêmes personnes qui te suivent pour ça et leur dire, vas-y, on va à 100 troller un streamer de droite, par exemple, tu vois. Parce que tout le monde va te dire, bah non, frère, même s'il est de droite, ça se fait pas. Enfin, non, on va pas aller lui pourrir sa soirée, tu vois. Il y a un truc un peu d'empathie qui est peut-être plus présente. Après, j'ai déjà vu des gens... En fait, j'ai vu des gens de gauche cyberharcelés. Mais qu'est-ce qu'on appelle troll, qu'est-ce qu'on appelle cyberharcèlement, tu vois? Genre, je pense que c'est pas toujours une démarche politique engagée, alors que quand les mecs seraient... Quand tu vois 4 trucs à la suite popés sur Reddit France sur l'ensauvagement de 4 comptes différents, soit c'est 4 personnes qui se sont organisées, soit c'est un mec qui s'est fait 4 comptes parce qu'il est très déterminé, et que sur Reddit, tu peux te faire un compte en 2 clics, et que du coup, il évite aussi d'être banni. Je pense qu'il y a du troll de gauche, mais qu'il est différent du troll de droite. Mais j'ai envie de faire une enquête. À quoi ressemblent
après,
les trolls de gauche?
Il y a un truc aussi qui est de l'ordre de l'exagération que tu peux mettre dans ton troll, tu vois. Genre les mecs d'extrême droite qui inventent des trucs.
Ah mais oui, mais toi t'es une troll de gauche avec Nadine Morano.
Je suis pas une troll de gauche, ok. Je suis une citoyenne. Qui s'exprime grâce au moi.
Citoyenne qui fait entendre sa voix.
Qui sont mis à sa disposition, ok. Et j'ai jamais insulté Nadine Morano, je lui ai jamais menti, donc je suis pas un troll d'une cyberharceleuse.
C'est vrai. Tu lui as
peut-être
juste
que
dit ce que tu pensais.
Non, mais en gros, dans la manière dont, dont les gens d'extrême droite créent des fake news, il y a un truc hyper... qui résonne aussi avec la manière dont le monde médiatique en ce moment il fonctionne, tu vois. C'est-à-dire que si demain je veux créer une fake news de gauche, il y en a eu quelques-unes, tu vois, qui sont déjà arrivées. Ouais, tu me diras si ça pourrait plus fonctionner, peut-être. Le truc de dire, ok, je sais pas, inventer un truc. Mais en fait, c'est toujours hyper glauque, tu vois. Genre, je sais pas s'il y a
non,
des gens de gauche
écoute,
qui inventeraient des fake news en mode de violence policière. En fait, il y en a 1000, il n'y a pas besoin de les inventer, tu vois.
Non, mais ça pourrait être plutôt des fake news sur, bah, du coup, des. Enfin, en fait, oui, il y en a 1000 et il n'y a pas la peine de les inventer, mais les mecs d'extrême droite qui inventent des fake news, ils inventent aussi des trucs qui existent sous d'autres formes, tu vois, mais qu'ils adaptent au discours qu'ils veulent porter. Mais là, il y avait un exemple récent sur Reddit de fake news qui, en tout cas, n'est pas du tout d'extrême droite ni rien, et qui est plutôt partagé par des gens avec qui le sub d'habitude, donc le sous-reddit, est d'accord, puisque c'est le compte de La Tronchambier, qui est donc un vidéaste qui est dans le mouvement de la zététique. Donc, en gros, leur truc, c'est la méthode scientifique avant tout. Et ils t'apprennent à remettre en question les évidences et à beaucoup lutter contre les fake news. Donc c'est vraiment leur truc. Et notamment, là, depuis le début du Covid, ils sont en feu entre les antivax, les gens qui pensent savoir comment marche l'épidémie. Enfin, vraiment, tous les, le docteur Raoult et tout, ils ont fait beaucoup de boulot sur « Ok, on va reprendre les bases et déconstruire beaucoup de fake news ». Mais ce compte-là, à part donc, de la tronche en biais, a partagé sur Twitter ou a retweeté, je sais plus, une photo de comme quoi apparemment Boiron, donc le laboratoire qui fait notamment de l'homéopathie, ils sont évidemment anti-homéopathie, car ce n'est pas de la science, chez les zététiciens, vendraient des kits de, d'homéopathie contre les effets secondaires du vaccin. Okay. Et donc c'était une photo de kit d'homéopathie Boiron contre les effets secondaires du vaccin, qui avait l'air d'être un peu mis en avant dans une pharmacie, donc un petit panier avec plein de kits et tout. Et en fait, mais quand tu creuses, il n'y a pas de source, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date. Donc déjà, ça ne leur ressemble pas trop de poster une photo vraiment sortie d'on ne sait où. Ça ne ressemble pas vraiment à un comptoir de pharmacie normal non plus. Les logos ont l'air un peu mal détourés. Et du coup, il y avait toute une discussion sur Reddit France qui a un... En fait, ils peuvent taguer des posts trompeurs, point d'interrogation, quand ils ne sont pas très sûrs. Okay. Quand quelqu'un poste un truc et quelqu'un vient dire « Attends, parce que moi j'ai vu l'inverse. » Cool, du coup, ça. Ils mettent en attendant trompeur en mode... Voilà, avancer avec prudence. Et du coup, il y avait plein de débats sur... Il y a des pharmaciens qui sont venus dire... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que Boiron nous file des kits d'homéopathie vides qu'on peut remplir, nous, avec des sélections. Par exemple, kits d'homéopathie contre les allergies au pollen. Et du coup, tu mets dedans les trucs d'homéopathie. Donc ça, en fait, qu'un pharmacien, quelque part, ait décidé d'en faire des kits d'homéopathie pour les effets, pour les effets des vaccins et les vendus, ça veut pas dire que c'est une consigne nationale, ça veut pas dire que Boiron le fait partout, enfin, c'est même pas sûr qu'il l'ait mis en vente parce que je suis pas sûr qu'on puisse. Donc voilà, il y a plein de gars qui expliquaient des trucs, c'est passionnant. Et du coup, bah, ça va, tu vois, sur Twitter, c'est un discours qui est compliqué à dérouler autour de cette seule photo parce que c'est pas fait pour. Sur Insta, bah, du coup, comment tu fais ça? Tu fais des stories hyper longues ou une caption hyper longue sous, sous un post, c'est
personne
hyper chiant.
N'écoutera au
ou un diapo de 10 posts, voilà comment vous pouvez aider. Here's how you can help, sur Canva. Donc c'est un peu le seul endroit où tu peux avoir cette discussion là, tu vois. Et c'est un exemple de fake news, alors qui est pas spécialement de gauche, mais qui est pas de droite en tout cas, et qui a été plutôt du coup relayé par des gens auxquels tu fais confiance pour ne pas faire ça justement et pour ne pas jouer le jeu des fake news. Mais là, c'est une fake news qui va dans leur sens, qui est que Boiron et l'homéopathie, c'est des connards qui nous mentent. Donc ils ont eu beaucoup moins de discernement qu'ils l'auraient fait pour une news qui va pas dans leur sens, je pense, et ils l'ont partagé en mode ah regardez bien, on avait raison. Alors qu'en fait, quand tu creuses, bah, ça veut pas dire que l'homéopathie, c'est pas une science non prouvée, mais c'est juste que c'est pas un bon exemple pour le prouver, quoi.
Ouais, bah, sur Twitter, je pense que ça aurait juste été pris comme un mème, en fait, comme un mime, genre comme les boîtes de médicaments homophobiales, tu vois.
Ah non, je pense que ça aurait été pris pour un vrai truc. Hein. Il y aurait beaucoup de retweets de boomers en mode « Regardez ce qu'ils nous mettent dans les veines, l'homéopathie c'est très bien », et de l'autre côté des gens qui disent « Les gens sont vraiment cons de croire à l'homéopathie ».
Ouais,
et tout.
Je pense le sujet homéopathie sur Twitter,
il est chaud,
jamais
hein.
Quoi.
C'est comme le sujet allaitement dans les communautés de parents, tu vois, c'est chaud. Ça n'arrête jamais d'être mouvementé. Après, je dirais pas que Reddit France, c'est un sous-Reddit. Je pense que Reddit France met pas mal à l'image pour le coup d'une partie de la société. C'est pas un subreddit de droite, c'est pas un forum où les gens sont majoritairement de droite. Je pense qu'ils sont de gauche, à la limite de gauche libérale, tu vois, mais ils sont pour des mesures de gauche, ils sont pour augmenter les impôts, ils sont pour améliorer la redistribution des richesses, ils sont pour plus d'argent pour les services sociaux, pour l'hôpital, pour machin, tu vois. Donc c'est pas des fionnistes qui sont là, je prends ma thune et je vais dans un paradis fiscal avec ma femme et mes deux enfants. Mais sur toutes les questions de justice sociale et la fameuse américanisation des luttes sociales, là, c'est plus compliqué. Donc, en gros, c'est des gens de gauche, mais qui voient des changements dans la gauche et notamment bah, dans les franges féministes, antiracistes et tout de la gauche, avec lesquelles ils sont pas hyper à l'aise pour l'instant. Et en même temps, il y a 5 ans, on leur disait harcèlement de rue, ils faisaient la toupie et maintenant, ils comprennent ce que c'est, tu vois. Ouais. Donc, il y a aussi ce truc de... Bah, je trouve que c'est une bonne façon, toute proportion gardée, de prendre un peu le pouls de ok, une frange de la société qui est pas spécialement des gros réacs, des vieux ou des machins, parce que je pense que pas grand monde a plus de 40 ans dessus, qui sont pas non plus des ados, parce que pour le coup je pense que les ados ils sont sur TikTok, ils sont pas sur Reddit France où t'as que des darons qui parlent de Darmanin, mais qui est quand même une frange de la population du coup qui peut aussi potentiellement être des alliés idéologiques. Du coup, c'est intéressant de voir ce qui se passe et ce qui se discute. Et puis moi, ça me fait me remettre en question aussi des trucs. Des fois, il y a des trucs, ça me paraît évident. Enfin, je suis là, ok, bon, bah, tout le monde a l'air d'avoir un avis là-dessus, parce que dans mes timelines, tout le monde a le même avis là-dessus, et je vais sur Reddit, et alors ils disent l'inverse, ou alors ils en parlent pas du tout. Et il y a un post avec 2 commentaires qui disent on s'en fout. Et je suis là, ok, pourquoi vraiment? Peut-être que ce problème nucléaire dans les autres réseaux d'une ampleur Hiroshima, en fait, peut-être que pour la plupart des gens, on s'en fout un peu, tu vois.
Oui, mais c'est bien, ça permet de voir un peu aussi, on le disait tout à l'heure, de sortir de ces bulles, et puis de voir, d'accéder à des sujets auxquels nous, on réfléchit pas de notre.
de notre condition, de notre point de vue, de notre statut, quoi. Parce qu'il y en a...
Oui, clairement, parce qu'il y a aussi, à l'inverse, des sujets qui vont beaucoup faire parler dessus, qui, moi, me préoccupent pas trop. Ouais, sais que là, comme il y a quand même pas mal de gens sur Reddit France qui ont vécu ou qui vivent en campagne, par exemple, et du coup, il y avait beaucoup de discussions autour de la chasse à la glu, l'ouverture de la chasse, est-ce que c'est possible d'avoir une chasse éthique, est-ce que c'est possible d'améliorer la façon dont on chasse en France et tout. Et moi, j'étais là, alors franchement, ça a l'air d'être des débats, mais de ouf. Pareil sur des bails de pistes cyclables, d'odanes, de voitures pour famille, parce qu'il y a pas mal de parents. Et dans mes cercles, personne s'est ému beaucoup plus que ça. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de hot takes sur la pêche à la glu, enfin sur la chasse à la glu, tu vois. Il y a des gens qui disaient c'est bien ou c'est pas bien vaguement, mais c'est tout.
Ouais, c'est plus dans le milieu là pour le coup dans le milieu des végétariens, des véganes et tout, où c'est des questions qui sont hyper posées, mais beaucoup par rapport à la souffrance animale, etc. Oui. Donc ça, enfin après là, tu vois, c'est un délire d'empathie, tu vois. Genre soit t'es empathique envers la cause animale, soit tu t'en fous, soit t'es entre les deux. C'est que ça te touche pas forcément, mais tu comprends. Et mais du coup en campagne, c'est hyper intéressant. Il y a un compte Insta, je sais plus comment il s'appelle, qui parle de chasse et tout, et c'est que des témoignages de gens en campagne. Et il y a pas du tout de notion d'empathie vers l'animal, tu vois, même si c'est très bien et voilà. Mais il y a d'autres points de vue, et c'est plutôt les gens en fait qui souffrent du danger de la chasse et qui expliquent en quoi c'est dangereux, en quoi ça faut faire attention quand t'es en campagne. J'ai vu un post ce matin où il y a des lacs qui sont carrément privatisés, où tu peux pas accéder à des parcelles de nature.
Régulièrement des randonneurs qui se font cartonner, quoi. Donc il y a des problèmes de sécurité.
Même des gens dans leur jardin récemment, malheureusement. Et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, ce genre de forum. Parce que c'est vrai qu'à Paris, la chasse, personne ne va chasser dans le 18e, quoi.
On parle rarement au bureau, comme ça, autour d'un café. Du coup, l'interdiction de la chasse à la glu, qu'est-ce qu'on en dit cette année, là.
Voilà. Et du coup, je trouve ça cool qu'il y ait ce genre de forum. Mais tu vois, les forums, moi, c'est un truc auquel je ne suis pas du tout sensibilisée. Pourtant, quand j'étais plus jeune, déjà, il y avait déjà des forums beaucoup, mais j'ai jamais accroché au format, en fait. Mais du coup, j'irai jeter un coup d'œil parce que ça a l'air intéressant.
En fait, après, je sais que Reddit, c'est quand même pas... Je pense que tu peux confirmer, Aïda, c'est pas hyper accueillant, même visuellement, c'est
très
moche.
Dur de comprendre ce qui s'y passe.
C'est pas hyper évident, même s'il l'optimise pour que ça devienne un peu plus mainstream, c'est pas très joli, tu vois, c'est pas... En fait, tu sens que c'est pas un réseau qui a été fait pour être un réseau comme peuvent l'être TikTok ou des choses comme ça qui sont faites pour t'attraper et qui du coup sont hyper jolies, hyper simples. En deux clics, c'est bon, tu peux lier tes comptes partout et tout. Reddit, ils te disent, il y a même pas de mail, je crois, juste ils te disent, donne un username, donne un mot de passe, c'est ton compte Reddit. Machala, tu peux mettre un avatar, I guess, mais tout le monde s'en fout. Et t'es là, ok. Merci Reddit. Et après, il y a tout un aspect social pour le coup, où tu peux faire des DM entre les gens. Enfin, tu peux avoir des conversations privées sur Reddit. Moi, je m'en sers pas, mais il y en a. Et au-delà de l'aspect politique, il y a tout un truc de communauté qui du coup va s'entraider. Là, il y a eu pas mal de posts forcément de gens qui vivent très mal les confinements, qui ont très peur du Covid ou qui à l'inverse n'ont pas peur du Covid et ils en ont marre et ils aimeraient aller dehors. Ma mère ne veut pas se faire vacciner, comment la convaincre ? Et oui, du coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps. Ouais. Aller filer des coups de main à des gens qu'ils connaissent pas, mais juste parce qu'ils peuvent relate avec ce qu'ils vivent. Et du coup, il y a quand même un côté mignon, au-delà du fait qu'il y a parfois des gens de droite.
Il y a un dernier truc incroyable sur Reddit, auquel je pense à reculons, parce que ça fait lien avec ce qu'on disait sur les trolls d'extrême gauche et d'extrême droite tout à l'heure, qui est un subreddit qui s'appelle The Right Can't Meme. Et en gros, c'est des gens d'extrême droite qui font des mèmes pour se moquer des gens de gauche, globalement. Et en fait, c'est le moment où le troll d'extrême droite devient un troll d'extrême gauche, parce qu'en fait, ils sont tellement nuls en mèmes. Je vais vous faire une description très claire.
Là, tu m'as perdu.
Ils sont trop nuls en mèmes, et du coup, ils font des mèmes d'extrême droite en mode... Je sais pas, ils mettent un tableau avec des arcs-en-ciel et des chevaux et des gens qui kennent et qui fument du shit, et ils sont là, ouais, c'est ça le futur que les gens de gauche veulent. Et tout le monde est là, ouais.
Franchement, faire ça, les gars,
ça a l'air trop bien, la nature elle va bien et tout. Et en fait, ils essayent tout le temps de troller l'extrême gauche en disant que des trucs avec lesquels l'extrême gauche est d'accord. Et du coup, peut-être que c'est ça.
Mais c'est des extrêmes gauches dans leur cœur. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça, ils n'osent pas s'ouvrir, parce que c'est vrai que la société finalement condamne ta honte.
Faut que tu les aides, Aïda, faut que tu les aides à se libérer.
Faut que je leur explique que oui, on veut pas travailler et vivre sous des arcs-en-ciel en mangeant des fruits.
Évidemment. C'est le but, c'est le plan. J'espère qu'on gagne à la fin.
Très bientôt.
Oh oui. Désolée pour cet épisode, ma foi très long, j'avais annoncé à tout le monde que ce ne serait pas long, j'ai menti, on a dérapé, on a digressé. Merci beaucoup à cette équipe de choc, merci Paola, merci Aïda, merci Anthony d'avoir été là. On se retrouve dans une semaine pour un épisode de Laisse-moi kiffer en live sur Twitch, le soir à 20h, et en attendant la prochaine fois, touchez-vous bien.
Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.